Merci, frère Orman. Courbons la tête juste un moment maintenant pour une parole de prière. Et pendant que nous avons la tête baissée, s'il y a quelqu'un qui a une requête spéciale, voudrait-il le faire connaître en levant la main? Le Seigneur voit ces choses, j'en suis certain. Croyons qu'il l'accordera. Notre Père Céleste, nous nous sommes assemblés ce matin dans le seul but de magnifier le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous te remercions d'avoir déjà senti sa présence. Et nous sommes sûrs qu'il est avec nous, parce que c'est sa promesse que là où deux ou trois ou plus sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, nous voulons te demander tes bénédictions, Seigneur, sur les requêtes aujourd'hui que nous t'avons fait connaître, maintenant levant la main. Tu sais ce qu'il y avait sous cette main dans le cœur, et je te prie de répondre à tous et à chacun. Nous te remercions aujourd'hui de l'occasion de t'adorer. Nous te remercions pour une Église, pour un peuple et pour des frères qui ont la même foi précieuse. Et maintenant, nous te demandons de nous donner le désir de nos cœurs aujourd'hui, qui est de te servir. Nourris-nous de cette manne cachée dont tu dis dans la Bible qu'elle était mise de côté et donnée aux prêtres seulement. Et il nous est enseigné que nous sommes des prêtres de Dieu, offrant un sacrifice spirituel qui est le fruit de nos lèvres, donnant gloire à son nom. Maintenant, nous te prions de nous bénir dans la suite de ce service, rompant le pain de vie pour nous. Au nom de Jésus, amen. Je suis heureux de voir notre grande famille revenue encore ce matin et content d'être ici avec vous. Et aux étrangers qui séjournent dans différentes parties du pays, qui s'assemblent avec nous le dimanche matin, d'être ici. Nous n'avons pas de dénomination et nous nous rassemblons simplement. Les gens qui croient en Dieu se rassemblent pour adorer le Seigneur ensemble et offrir nos prières à Dieu et lui faire notre confession. Et chaque dimanche et chaque jour, nous traversons un purgatoire qui est de purger nos âmes de nos péchés par son Saint-Esprit, essayant de vivre aussi saintement que nous le savons dans cet âge présent, attendant son retour en tout temps. Et nous l'attendons à tout instant. Maintenant, nous avons un grand programme aujourd'hui. Nous avons notre service d'école du dimanche ici ce matin. Et puis ce soir, nous avons un programme tout à fait spécial ce soir. Mon cher ami, frère Joseph Bozé, il n'est pas un étranger ici parmi nous, mais je crois que c'est la première fois qu'il nous rend visite dans l'église. C'est dans le monde entier où je voyage, j'ai toujours eu deux églises que j'appelle toujours des églises modèles. Et l'une est frère Joseph Bozé, l'église de Philadelphie à Chicago, Illinois, et l'autre, frère Jack Moore à Shreveport, Louisiana. J'étais tellement à ces églises que, quand je reviens de voyage missionnaire, quelqu'un dit, n'appelez pas Jeffersonville pour avoir frère Branham, appelez Chicago, et s'il n'y est pas, appelez Shreveport. J'y suis allé si souvent. Joseph a quitté Chicago. Cela nous a brisé le cœur au début, quand nous pensions qu'il devait quitter Chicago. Mais après avoir prié, nous avons vu que c'était Dieu qui lui donnait un appel. Et mon petit ami est entré brillamment dans une grande œuvre au Tanganyika, au Kenya, en Ouganda, et il fait un grand travail. Et nous sentons que nous devons le supporter de toutes les manières possibles dans ces réunions. Et je me propose, si c'est la volonté de Dieu, en janvier prochain, d'être avec lui dans ses écoles à travers l'Afrique, là-bas, et de là, nous continuerons en Afrique du Sud. Et il vous en dira davantage à ce sujet ce soir, quand il s'adressera à l'Église. Il parlera cet après-midi, je crois, à environ 8 heures, aussitôt que les préliminaires seront finis. Puis, il a un film que vous serez heureux de voir, j'en suis sûr. Et ce film est sur ses écoles en Afrique et sur ce que le Seigneur a fait pour lui en peu d'années. C'est très encourageant pour moi de montrer de voir le film, car il montre ce que Dieu peut faire avec une seule personne qui a trouvé sa volonté et sa place. Après avoir attendu des années pour trouver cela, puis marcher dans le chemin où Dieu l'a dirigé. Amener les enfants, la première partie est très courte. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, Joseph a bien le sens de l'humour. Et je devine qu'il avait pensé que je verrais ce film. Aussi, il est sorti un soir pour prendre un lion En Afrique, là-bas, il y a beaucoup de lions. Aussi, Joseph est sorti et a pris un lion. J'ai pensé que c'était vraiment extraordinaire. Après que la mère ait tué, qu'ils aient mangé l'animal, elle retirait la peau, et les petits la suivaient, essayant de faire comme elle, comme si elle le tuait à nouveau, vous voyez. Et je suis sûr que les jeunes vont aimer à peu près 5 ou 10 minutes de cette scène, je crois, au début du film. Maintenant, venez de bonne heure. Et on ne m'a pas demandé de dire ceci, je ne désire pas le dire, Joseph n'est pas au courant, mais je crois que ce soir, nous allons montrer que nous apprécions frère Joseph en lui donnant une offrande pour ses missions outre-mer. Nous croyons que le Seigneur Jésus vient, et si vous avez mis de côté une offrande pour les missions, ou quelque chose pour les missionnaires, ou quelque chose dont vous voudriez faire une contribution pour cela, faites votre chèque à Joseph B-O-Z-E ce soir. B-O-Z-E, c'est cela, n'est-ce pas? Joseph Bozé. Et c'est... Je connais frère Joseph comme un ami de cœur, un ami personnel. Et il sait que cela ira pour le royaume de Dieu au mieux qu'il saura. Et ainsi, avant d'aller plus loin, je voudrais vous le présenter, lui laisser dire quelques mots ici. J'ai essayé de lui faire prendre le service du matin et il n'a pas voulu. Aussi, il nous parlera ce soir à 8h aussi longtemps qu'il voudra. Et le projecteur sera prêt ainsi que l'écran ici pour le film. Mais juste maintenant, je voudrais juste parler à l'église pour lui présenter mon bon ami et frère Joseph Bozé. Frère Bozé échange quelques compliments en note de l'éditeur. Merci frère Joseph, c'est très bien. Ceci est la Suède et l'Irlande ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos compliments, frère Joseph. Je pourrais dire la même chose de lui. Nous sommes si reconnaissants au Seigneur pour le grand travail qui se poursuit en Afrique. Et il vous en dira plus à ce sujet ce soir. Et maintenant, je crois que Billy est sorti et il m'a dit d'avoir frère Neville ou quelqu'un pour... l'acoustique n'est pas très bonne dans le fond. Entendez-vous bien là-bas? Non, ils n'entendent pas bien. Voudriez-vous arranger les appareils? Et je crois que, pendant que nous attendons qu'il arrange cela, je crois que ma nièce Donna a un petit... Elle et Teddy ont un petit garçon qu'ils veulent présenter au Seigneur. Et donc, Donna, si tu veux amener ce petit garçon maintenant, et voyons, où est la sœur qui joue du piano? Est-elle ici? Il y a quelqu'un ici? Ça va, monsieur, ce sera très bien, ça va. Je n'étais pas à la bonne place. Je pensais que c'était moi qui n'étais pas à la bonne place. Maintenant, nous avons un petit chant que nous chantons généralement à peu près à ce moment pour les petits-enfants qui est « Apportez-les, apportez les petits à Jésus ». Maintenant, beaucoup d'églises aspergent ces petits-enfants. C'est en ordre qu'ils désirent le faire. C'est strictement en ordre en ce qui me concerne. Et d'autres ont des façons, peut-être qu'ils appellent ça le baptême. Et s'ils désirent appeler cela le baptême, c'est en ordre en ce qui me concerne. Mais l'Écriture est ce que nous essayons de suivre juste de la façon dont la Bible dit, simplement rester juste dans l'Écriture. Il n'y a rien d'autre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que le fait d'apporter les petits-enfants à Jésus. Et il est béni et dit, laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Maintenant, c'est ainsi que nous le faisons. Le pasteur et moi, nous nous tenons là, prenons les petits et offrons une prière de présentation au Seigneur. Et alors, quand ils sont, nous pensons qu'un bébé n'a pas de péché, pas d'autre péché que celui dans lequel il est né. Nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Et maintenant, quand Jésus mourut au calvaire, il effaça les péchés du monde. Donc, le bébé aurait pu naître ou il aurait pu mourir avant d'être né ou né sans arriver à l'âge de la responsabilité et il n'a pas de péché. Jésus effaça les péchés du monde. Mais quand il est suffisamment âgé, commet des péchés, alors il doit confesser ses péchés et être baptisé pour la rémission de ses péchés. Vous voyez? Mais maintenant, évidemment, il est trop jeune. Alors maintenant, chantons tous ce bon vieux cantique. Nous chantons maintenant. Je ne sais pas si je peux... Ou non, amenez-les, amenez-les, amenez-les des lieux du péché, amenez-les, amenez-les, amenez les petits à Jésus. Quel est son nom? Teddy Junior, Bien, monsieur. Nous sommes très heureux de voir ce jeune couple ici ce matin, avec ce beau petit Teddy ici, et prions que Dieu le bénisse abondamment et lui donne la vie éternelle dans le monde à venir et une longue vie ici. Et est-ce que je peux l'avoir juste une minute? C'est le jeune Teddy Arnold. Nous connaissons tous Teddy ici, il est notre un frère ici à l'église, il a épousé la fille de mon frère ici, Donna. Et ils ont ce petit garçon ici, un nouveau venu. Je pense que c'est votre second. Et l'autre est une petite fille, si je ne me trompe pas. C'est un beau petit garçon. J'ai toujours peur de les casser quand ils sont si petits, si délicats. J'ai simplement peur qu'ils se cassent. Maintenant, pouvez-vous imaginer une mère apportant son enfant comme cela au Seigneur Jésus? S'il était là ce matin, une personne comme nous qui sommes là, cette mère courrait avec vitesse vers lui, désirant qu'il pose ses mains sur le bébé et le bénisse. Le cœur du papa sauterait de joie. Nous savons que Dieu l'a donné à leur union et ils veulent leur redonner au Seigneur pour montrer qu'ils apprécient qu'il leur est donné. Courbons la tête. Notre Père Céleste, nous essayons de suivre ton exemple. Quand les pères et les mères t'apportaient leurs petits-enfants, tu posais tes mains sur eux et tu les bénissais. Et maintenant, Père Céleste, ce jeune couple a été béni dans son foyer en recevant ce petit garçon, ce petit Teddy Arnold Jr. Aussi, nous te prions, Père Céleste, que ta bénédiction repose sur l'enfant. Nous imposons les mains sur lui en mémoire de toi et de ta promesse envers nous, que nous devons imposer les mains aux gens en mémoire de ta grande parole. Bénis le petit Teddy. Ô Dieu, nous te prions de lui donner une longue vie et une bonne santé. Puisse-t-il vivre pour voir la venue du Seigneur, si c'est possible. Et nous prions pour son père et sa mère, puisse-t-il être béni en élevant cet enfant. Et s'il y a un lendemain, fais de lui, Seigneur, un ministre de l'Évangile, et donne-lui les choses que tu as promises à la race humaine, qu'il ait la vie et la vie en abondance. Nous te le donnons maintenant, le petit Teddy Arnold, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Donna et Teddy, longue vie et beaucoup de bénédictions, et à toi, petit Teddy, parce qu'il t'aime. Oh, je les trouve si mignons, les petits, j'aime tout le monde, mais je pense que les enfants et aussi les personnes âgées, quand vous vieillissez, il y a de vieux hommes, des vieilles femmes, quand ils vont leur chemin si faible, je pense qu'ils inspirent la pitié, vous savez, et je pense que nous ne devrions jamais, voyez les traverser la rue, s'arrêter, et si c'était votre père ou votre mère, voyez-vous, aussi respectez-les. Et ils parlent peut-être lentement et longtemps, et peut-être de choses que vous n'avez pas envie d'entendre, mais rappelez-vous que vous pouvez devenir vieux aussi un jour ou l'autre. Aussi, respectez-les toujours. Et ces petits-enfants, qui pourrait les maltraiter? À propos, vous ne devez jamais faire cela. Vous savez que Jésus a dit, prenez garde de ne pas mépriser l'un de ces petits, car leur ange contemple toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. Rappelez-vous qu'ils ont un ange. Quand vous naissez, il reste avec vous toute votre vie. Et maintenant, alors, quand vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit et il vous guide et vous dirige. Et maintenant, je regarde dans tout l'auditoire pour voir ceux que je connais. Et si je ne me trompe pas, je vois une sœur de Chicago par ici. Cela vous donne l'impression d'être à la maison, d'être représenté à Chicago. Sœur Peckinpah et tous ceux de là-bas. Nous sommes heureux ce matin de voir frère et sœur Cox ici, et Charlie, Nelly que nous connaissons, Rodney est ici quelque part, je suppose, sœur Cox, un de nos frères dans le ministère ici. Tant de personnes différentes que je ne peux même pas arriver à les nommer toutes. Je suis heureux de voir frère Evans et sœur Evans là au fond. C'est cet homme dont j'ai dit qu'il avait été mordu par un serpent à sonnette et le Seigneur. Voudriez-vous simplement lever la main ou faire un signe, frère Evans? Pour que l'on voie ici que nous étions en train de pêcher et le serpent le mordit à la jambe. Et je lui ai imposé les mains et j'ai prié pour lui et cela n'a même pas enflé. Et il n'a plus jamais rien eu après cela. Et la Bible dit, vous le savez, ils chasseront les démons. Ils marcheront sur la tête des scorpions et des serpents et rien ne leur fera du mal. Et leur, en mon nom, ceux qui croient en moi, tous ces pouvoirs et tout ce qu'ils pouvaient faire, etc., nous a été donné. Alors, si, n'ayez simplement pas peur. Si quelqu'un vous donne un chèque avec un nom signé en bas, si vous laissez ce chèque dans votre poche toute votre vie, il ne vous servira à rien. Il faut que vous l'encaissiez. De même, toutes les promesses dans la Bible sont signées au bas du nom de Jésus. La banque des cieux est responsable et le dépôt y a été fait au calvaire quand nos péchés furent pardonnés. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. N'ayez donc pas peur d'encaisser tous les dons que Jésus a promis. Rappelez-vous seulement qu'il l'a promis et que c'est à vous. Je l'ai vu arrêter les flammes de feu, arrêter le sang, éteindre la violence du diable et chasser les ennemis et guérir le cancer, ressusciter les morts alors que le docteur était là. Celui qui était mort depuis des heures et des heures, il le rendit de nouveau à la vie. J'ai vu cela dans mon faible petit ministère des fois et des fois. Ainsi j'ai vu des bêtes sauvages domptées jusqu'à ne plus pouvoir bouger et toutes sortes de choses. Ainsi, il est simplement, il est toujours Dieu. Si jamais il fut Dieu, il est toujours Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, il ne fut jamais Dieu parce qu'il aurait fallu qu'il soit Dieu. Il aurait fallu qu'il soit infini, qu'il sache toutes choses, qu'il soit omnipotent, tout puissant, omniscient, omniprésent. Et oh, il est simplement Dieu. La perfection de la perfection est Dieu. Maintenant, je ne cherche pas, quelquefois quand j'enseigne tes classes du dimanche, il y a à peu près 4 heures ou quelque chose comme cela. Ici, il y a quelques dimanches, je suis resté ici 6 heures. Je n'espère pas vous effrayer, vous voyez, mais je n'ai pas cette intention ce matin, juste 5h30. Non, juste, il se peut que je ne sois pas avec vous pour un moment maintenant. Nous partons en Virginie ou en Caroline du Sud et du Nord, puis vers la côte ouest, toute la côte ouest, puis le Canada et l'Alaska, puis nous allons revenir. Et peut-être, le Seigneur voulant, nous irons en Afrique voir Joseph, puis nous descendrons encore en Afrique du Sud. Nous avons eu un grand rassemblement il n'y a pas longtemps en Afrique du Sud, quand tout le cours de l'Afrique fut changé en quelques heures, quand Dieu, d'une façon miraculeuse, quand les premières pages des journaux donnaient des articles sur la première, deuxième et troisième page, il n'y avait que des articles sur les réunions. La première fois, ils nous montraient du doigt. Ils auraient même refusé de l'essence à un homme parce qu'il allait à la réunion. Ils ne voulaient pas lui en vendre. Ils disaient, un fanatique pareil. Et le jour suivant, ils lui auraient donné l'essence pour rien. Voyez-vous? Vous voyez cette différence? Quelque chose se passe. Il caressait un petit animal là, vous savez, et il lui dit, où allez-vous? Il dit, je vais à Johannesburg. Il dit, oh, vous êtes un homme d'affaires. Il dit, non, je vais voir Frère Branham à la réunion. Il dit, quoi? Il dit, vous avez pourtant l'air plus intelligent que cela. Il dit, eh bien, je suis chrétien, je vais voir cela. Il dit, allez donc chercher votre essence ailleurs. Et le jour suivant, en revenant, c'était le seul arrêt entre là et le Transvaal, aussi il dut y passer, il s'arrêta à la prochaine station après celle-là. Cet homme sortit en courant, l'attrapa, lui dit, « Venez par ici, venez par ici !» Les journaux en première, deuxième page, etc. étaient pleins de ce que le Seigneur avait fait. Et ainsi nous en sommes reconnaissants. Maintenant, simplement pour nous rassembler, si quelqu'un veut venir amener des amis, nous allons être maintenant au Cow Palace. C'est une grande exposition d'animaux, une grande exposition d'animaux dans l'ouest, sur la côte ouest à Southgate. Et certains d'entre vous qui sont comme moi, qui aiment les fusils, vous pouvez venir avec moi si vous voulez, si vous êtes dans ce coin-là. J'irai visiter la fabrique Webb Irby. Et ainsi, on peut aller dans beaucoup d'endroits pendant la journée. Vous pouvez aller à Catalina, Island, vous savez ce que c'est. Et pour vous, hommes et femmes, avec vos petits-enfants, il y a Disneyland. Et c'est un des membres du groupe aussi, ainsi venez donc. Je sais que vous passerez un bon moment. Et surtout, priez que Dieu ouvre les yeux des incroyants et en fasse des convertis à Christ. Maintenant, nous allons lire quelques paroles de la Bible ici, parce que j'aime le faire. Et puis, j'ai quelques passages des Écritures qui sont inscrits ici, et quelques notes sur lesquelles j'aimerais enseigner ce matin pendant un moment. Rappelez-vous du service de ce soir. Et puis, j'aimerais vous dire tout ce qui s'est passé cette semaine dans les entrevues privées, etc., mais je n'ai pas le temps. Et je remarque qu'il y en a certains assis ici ce matin qui ne sont pas de cette ville et qui attendent toujours une entrevue. Nous essayerons de le faire cette semaine aussi vite. Nous essayerons de faire tout ce qui est en retard ici de toute façon avant de partir. Maintenant, nous voulons prendre dans l'Évangile Marc 16, le 16e chapitre de Saint Marc. Et mon titre pour ceci aujourd'hui est « L'évangélisation du temps de la fin ». Et nous commençons à lire Marc 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a tant à dire sur ceci. C'est la dernière mission que le Seigneur donna à l'Église. Je viens de regarder ici en bas, j'essaie de penser, frère West, j'essaie de me rappeler votre nom il y a quelques minutes. Vous êtes assis là venant de Géorgie et je ne pouvais absolument pas me rappeler votre nom pendant quelques instants. Et l'autre frère qui est assis ici, je ne peux pas me rappeler son nom. Et la plupart d'entre vous comprennent que je n'essaye pas de faire comme si je ne connaissais pas quelqu'un, mais je n'ai pas leur nom présent à mon esprit. Maintenant, nous pensons à l'évangélisation au temps de la fin. Et tous ceux qui le veulent peuvent lire un journal et peuvent lire « Le ciel est noir et s'assombrit, les nuages arrivent, et maintenant nous allons avoir la pluie et nous le sentons dans l'air. Et nous voyons de grandes lueurs au loin et les éclairs et les rafales de vent. Nous savons que nous allons avoir un orage, qu'il va bientôt pleuvoir. » N'importe qui peut lire le journal et peut voir la condition de la nation, des nations, et réaliser que quelque chose est près d'arriver. Quand vous en voyez un avec un sur l'épaule et l'autre, et ceux qui se disputent avec toutes sortes d'armes pour se battre, et pas d'arrangement, lançant leurs chaussures, frappant sur le bureau, et tout cela à leur conférence, vous savez que quelque chose va arriver. Et cela amène en quelque sorte les gens à sentir que quelque chose va arriver. Le monde, comme nous l'appelons, le cosmos, le monde extérieur, sent que la destruction vient, comme si un âge atomique était prêt à faire rage. Le chrétien sait que c'est la venue du Seigneur, voyez-vous. Il y a une atmosphère. Cela dépend de ce que vous regardez, car notre Seigneur nous a dit exactement ce qui arriverait en ce temps, et nous ne savons pas la minute ni l'heure, mais nous savons que nous approchons de quelque chose maintenant. Comme je disais ici, il y a quelque temps, je regardais un agneau un jour en Afrique, dans un corral, et il était en train de paître tranquillement, et tout à coup, il devint nerveux. Je me demandais ce qui arrivait à cette petite bête. Et vous savez qu'un mouton ne peut pas retrouver son chemin d'où qu'il vienne, il est perdu complètement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous compare à des moutons. Vous voyez, quand nous sommes perdus, il n'y a qu'une seule chose qui puisse nous ramener, c'est le berger. Et cette petite bête bêlait, et il s'était égaré hors du corral. Et je remarquais que dans l'herbe, bien au-dessous, ce petit animal ne pouvait pas le voir. Et un agneau ou un mouton ne flaire pas son ennemi comme un autre, comme une biche ou quelque chose comme cela. Mais il pouvait sentir que la mort était proche. Et il y avait un lion qui arrivait en se glissant tranquillement. Il pouvait sentir le mouton. Aussi, il venait, voyez, pour attraper l'agneau. Et le petit animal devint nerveux. Vous ne pouviez pas en voir la raison, mais la mort rôdait si près qu'il était nerveux. Et le monde est dans un tel état de nerfs juste maintenant qu'il descend de la rue à 150 km à l'heure pour aller s'asseoir dans un café et boire de la bière pendant 2 heures avant de rentrer à la maison. Et c'est un assaut de « parlez à quelqu'un, Oh, ils explosent. L'autre soir, par exemple, je parlais à un tabernacle. J'étais prêt à aller dans un hôpital pour essayer de prendre quelques-uns des appels de Frère Neville. Et à chaque fois que je parlais à une infirmière ou à un docteur, il répondait brutalement, « Je n'en sais absolument rien !» Eh bien, je pensais, que se passe-t-il? Tout le monde se défoule, je crois. Mais les docteurs, les psychiatres soignent les psychiatres. Mais il y a un moyen d'en sortir, et c'est Christ. Maintenant, le chrétien ne doit pas être dans cette condition. Nous devons être heureux, attendant sa venue, car elle est proche. Nous pouvons sentir la brise rafraîchissante du calvaire. Quand nous regardons et voyons le Dieu du ciel qui fit la promesse et les choses même que Jésus fit dans sa vie, promettant qu'il reviendrait dans les derniers jours. Et ici, nous le voyons. Qu'est-ce que cela? C'est un souffle rafraîchissant comme lorsque la pluie vient, voyez-vous? Nous savons que la rédemption est proche, voyez-vous? Quelque chose est prêt d'arriver. Maintenant, le monde ne voit pas cela. Ils en rient, parce que c'est comme ils le firent en d'autres temps, mais nous savons que cela approche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui ce sujet. C'est le dernier pour un peu de temps au tabernacle, sur l'évangélisation du temps de la fin. Et quand nous faisons du travail missionnaire ou une mission à l'étranger avec la parole de Dieu, nous savons que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Parce que le premier commandement de Jésus à son Église était « Allez et prêchez l'Évangile ». Ce dernier commandement était de prêcher l'Évangile. La première fois qu'il a donné à quelqu'un l'ordre de prêcher l'Évangile et de parcourir le pays, il a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Saint Matthieu chapitre 10, il envoie les 70, deux par deux, ce fut le premier ordre qu'il donna à son Église. Maintenant, le dernier ordre qu'il donna à son Église, juste avant qu'il soit reçu dans la gloire, fut « Aller dans le monde entier ». Il venait juste de ressusciter des morts. Et beaucoup d'entre eux étaient assis ensemble et il leur reprocha la dureté de leur cœur à cause de leur incrédulité. Ils ne croyaient pas ceux qu'il avait vus après sa résurrection. Voyez, ils avaient un témoignage qu'ils avaient vu le Seigneur. Et les autres ne le crurent pas. Et il leur fit des reproches à cause de la dureté de leur cœur. Ils ne croyaient pas ces gens qui avaient vu qu'il n'était pas mort. Il est vivant. C'est la même chose aujourd'hui quand vous voyez ses œuvres. Maintenant, nous avons déjà vu et nous sommes témoins de l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparaître et venir sont deux mots différents, apparaître puis venir. Maintenant, il apparaît, il est déjà apparu dans ces derniers jours, juste ici, avec nous, dans ces quelques dernières années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Il apparaît dans son Église, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est lui, car les gens ne peuvent pas faire ce que vous voyez faire au Saint-Esprit. C'est donc le Seigneur qui apparaît. Maintenant, rappelez-vous, ce sont deux choses différentes. Apparaître et venir. Maintenant, il leur reprocha la dureté de leur cœur, parce qu'ils ne croyaient pas ceux qu'il avait vus. Je crois qu'ils feraient la même chose aujourd'hui. Après que nous, ils ne croyaient pas au témoignage de ces gens, et il leur reprocha. Et puis, il leur ordonna d'aller dans le monde entier, de prêcher l'Évangile à toute créature, et qu'il serait avec eux jusqu'à la consommation, la fin du monde. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Maintenant, aujourd'hui nous essayons de porter la parole écrite que nous avons, sous forme de lettres, sous forme de credo, etc., à tout le monde. Et il y a des missionnaires partout. Mais que trouvons-nous quand nous arrivons là? Un indigène qui ne peut pas lire son nom, tenant un tract à la main. Il n'en sait pas plus là-dessus qu'il ne sait distinguer sa main droite de sa main gauche. Mais quand Jésus a dit « Allez et prêchez l'Évangile », il n'a jamais dit « Enseignez la parole ». Il a dit « Prêchez l'Évangile ». Et l'Évangile n'est pas venu en parole seulement, mais au travers de la manifestation de la parole. Car la seule façon dont cela pouvait être fait était que ses promesses s'accomplissent. Un homme peut lire cela comme... William Jennings Bryan, quand il discutait avec Darrell sur l'éthique de Darwin, voyez-vous, Il ne pouvait dire que ce que Darwin avait dit et William Jennings Bryan pouvait dire ce que la Bible disait. C'était le débat. Mais dans ce cas, Dieu vient parmi son peuple et prouve que sa parole est manifestée. Et la seule façon dont vous pouviez faire cela n'est pas par un tract, mais par le Saint-Esprit agissant à travers vous. Votre vie devient sa vie. Il est en vous. Les païens, quand ils adorent une idole, ils se prosternent devant l'idole et ils croient que l'idole leur répond, que Dieu, leur Dieu, vient dans cette idole et leur répond à travers elle. Maintenant, cela est juste le contraire de ce que Dieu est. Dieu n'a rien à faire avec les idoles. Vous êtes son instrument. Vous vous prosternez devant Dieu et il vient en vous et de là, il parle aux gens. Voilà la différence. Il est un Dieu vivant pour une personne vivante, pas un Dieu mort pour une idole morte. Il est un Dieu vivant pour un être vivant. Et vous devenez ses témoins, ce qu'il a dit ici. Maintenant, remarquez que beaucoup de gens disent que c'était seulement pour les apôtres. Il a dit ici, « Allez par tout le monde et prêchez cet évangile à toute créature. » Et, conjonction, « ces signes suivront ceux qui croient. » Maintenant, aujourd'hui, nous disons qu'un bon membre d'église donne une poignée de main au pasteur, met son nom des méthodistes aux baptistes ou des baptistes aux méthodistes, ou etc., et vit une bonne vie. Maintenant, nous missionnaires, nous voyons ces païens vivre une vie que ces Américains, soi-disant chrétiens, ne pourraient absolument pas comparer à la leur. Voyez-vous? Ainsi, si une vie bonne est seulement ce qui compte, ils sont sauvés de même que les autres par une idole. Leur morale nous dépasserait au point que nous n'aurions pas une chance de nous tenir debout en leur présence. C'est juste. De même pour leurs actes. Mais ce n'est pas ainsi. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Pour être né de nouveau, il faut aller mourir à soi-même. Et l'Esprit de Christ vient en vous. Alors vous n'êtes plus vous, c'est Christ en vous. Vous voyez, le Saint-Esprit. Paul a dit, je meurs chaque jour. Pourtant je vis, pas moi, mais Christ vit en moi. Voyez, Christ. Et si je vous disais que l'esprit de John Dillinger était en moi, j'aurais des fusils ici, je serais un hors-la-loi, parce que ce serait son esprit en moi. Si je vous disais que c'est l'esprit d'un artiste, vous attendriez à ce que je peigne le tableau d'un artiste. Et si je vous dis que je suis un chrétien et que l'esprit de Christ est en moi ou en vous, alors nous faisons les œuvres de Christ. Jésus a dit en Saint Jean, « Celui qui croit en moi les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Puis il a dit ici, « Ces signes suivront ceux qui croient. » Maintenant, à travers les âges, il y a eu un moment où ces signes n'ont pas suivi le croyant, c'est juste. Le prophète en a parlé, et il en parla dans Zacharie. Il a dit, « Il viendra un temps qui ne pourra être appelé ni jour ni nuit, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. » Maintenant, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il ne change pas, c'est le même soleil. Maintenant, quand le Saint-Esprit vint, Jésus, le Fils de Dieu, vint à l'est sur les gens de l'est. Ce fut un jour, comme il voyageait, comme la civilisation a voyagé avec le soleil allant de l'est à l'ouest. Et maintenant, nous sommes à la côte ouest. Si nous allons plus loin, nous sommes de nouveau à l'est. Tout montre sa venue. Nous sommes à la fin des temps. Tout montre que tout est terminé. Maintenant le prophète a dit, et aucune prophétie ne doit avoir une interprétation particulière comme Jésus l'a dit. C'est exactement ce qui est dit, dans le soir, la lumière paraîtra. Alors, le même Fils vint vers les gens de l'Est et montra ses œuvres et ses bénédictions. Il fut prophétisé qu'il y aurait un jour sombre, ni jour, ni nuit. C'est un jour de ténèbres, comme s'il était brumeux. Et vous ne pouvez pas voir le soleil, mais pourtant le soleil donne un peu de lumière. À peu près comme c'est dehors maintenant, peut-être un peu plus sombre. Et nous en avons eu assez pour nous joindre à une église, et pour mettre nos noms dans les livres, etc. Mais au temps du soir, ce même grand pouvoir de Christ viendra sur son église exactement comme il le fit autrefois dans l'Est. Dans l'Ouest, ce sera la même chose. Ainsi, Voici pourquoi je désire parler sur l'évangélisation du temps de la fin. Chaque âge a eu son message et ses messagers. À travers tous les temps, chaque âge a donné son message avec un messager. Dieu, dans chaque dispensation, a envoyé quelqu'un loin du Saint-Esprit pour apporter son message pour cet âge à chaque fois. Et maintenant, nous pouvons revenir en arrière pour montrer ceci juste un peu. Même depuis le commencement, Dieu était le messager au commencement pour dire à Adam et Ève, vous mangerez ceci, mais vous ne ferez pas cela. C'était cela le message. Et quand l'homme se détourna du message de l'heure, cela a porté la mort et le chaos à la race humaine tout entière. Maintenant, voilà tout ce que signifie le message. Et rappelez-vous que ce n'était pas un refus complet de ce que Dieu avait dit, qu'elle croyait, c'était prendre ce que Dieu avait dit et le repeindre, ou juste un peu mal l'interpréter, juste y ajouter un petit quelque chose, ou juste en enlever un petit peu. C'est la raison pour laquelle je crois que la parole est la vérité. Si nos credos et nos dénominations ne s'accordent pas complètement avec la parole, alors c'est faux. Et si Dieu ne permettait pas, et si sa parole était si importante que juste le fait d'en citer inexactement un mot était la cause de tout, de chaque mort qui soit jamais arrivée, de chaque souffrance, de chaque enfant qui pleure, de chaque enterrement, de chaque tombe sur une colline, de chaque ambulance avec sa sirène, de chaque goutte de sang répandue, de la vieillesse, de la faim, des ennuis que nous avons, juste le fait que la parole de Dieu a été mal interprétée, a été la cause de tout ceci, nous excusera-t-il à la fin des temps si nous recommençons à la mal interpréter? Ainsi, vous voyez, le christianisme est une chose importante. Si cela a coûté tous ces 6000 ans d'ennui parce qu'une parole avait été mal employée, maintenant nous n'allons pas recommencer à mal employer une autre parole. Il faut que ce soit exactement conforme à la parole, pas à l'interprétation de quelqu'un, seulement ce que dit la parole. Tant d'hommes vont se réunir et dire « cela signifie ceci » et ils seront d'accord et d'autres vont dire autre chose. Mais la parole dit « c'est ceci ». Si Dieu allait juger le monde par l'Église, alors quelle Église est-ce? S'il allait le juger par une nation, quelle nation est-ce? Il jugera le monde par la parole, la Bible. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole fut faite chair et habita parmi nous. C'était cela. Christ était la parole de Dieu faite chair, exprimée à travers un être humain. Et maintenant, dans l'Apocalypse, il dit, si quelqu'un retranche une parole de ceci ou y ajoute un mot de même, sa part sera retranchée du livre de vie. Aussi, voyez-vous, ce n'est pas seulement, eh bien, je crois ceci, mais je ne suis pas sûr de cela. Vous devez la croire entièrement. Peut-être n'avez-vous pas la foi pour la regarder en face, mais n'essayez pas de barrer le chemin à quelqu'un d'autre. J'ai souvent dit que je souhaiterais, quand ma vie sera finie, avoir la foi pour marcher comme Enoch, ne pas mourir, mais simplement faire une promenade dans l'après-midi et aller à la maison avec Dieu. J'aimerais faire cela, mais si je n'ai pas ce genre de foi, je ne barrerai pas le chemin à quelqu'un d'autre qui l'aurait, voyez-vous? Maintenant, nous sommes au temps du soir, et les messagers depuis le commencement des temps, nous voyons qu'au commencement, quand un messager était envoyé pour mal interpréter sa parole ou douter d'une seule parole, était l'anéantissement total, l'éternelle séparation d'avec Dieu, de mal interpréter la parole de ce messager. Et le premier messager fut Dieu lui-même. Et tous les autres messagers étaient Dieu parlant à travers des hommes, car c'est la parole de Dieu, puisqu'il n'y a pas alors d'homme au travers duquel il puisse parler, si ce n'est celui à qui il parle. Mais comme il a fait l'homme et l'a racheté, c'est Dieu parlant à travers de l'homme. Il ne se sert pas de l'action d'un moyen mécanique, mais de l'action de l'homme, l'homme qui s'abandonne à Dieu et lui est consacré. Nous pourrions démontrer cela au travers des prophètes, et Samson tout au long du temps jusqu'à cet âge présent. C'est toujours un individu avec Dieu. Maintenant, chaque âge, je l'ai dit, eut son message et son messager. Maintenant, prenons un autre âge après l'âge de l'Éden, juste pour avoir un arrière-plan. Maintenant, après l'âge de l'Éden, vint l'âge de Noé. maintenant quand le monde, nous étions, l'autre soir je parlais au Clarksville Tabernacle, au sujet du signe du temps de la fin. Puis l'autre soir, jeudi soir, sur être identifié à Jésus. Et maintenant, ce matin, sur l'évangélisation de la fin des temps. Excusez-moi. Maintenant, juste avant la destruction antidéluvienne et l'époque du déluge, nous voyons qu'ils avaient une plus grande civilisation que celle que nous avons maintenant. Je crois qu'ils contrôlaient la puissance atomique. Je pense que c'est cela qui secoua le monde de son orbite. Je suis allé dans les champs de glace britanniques. On a creusé à 500 pieds de profondeur. On a trouvé des palmes, il y avait des palmes autrefois, il y a de nombreuses centaines d'années. Et on nous enseigne, nous savons que le monde se tenait debout. Mais ils avaient une telle connaissance de la mécanique, une telle science, qu'ils pouvaient construire une pyramide, un sphinx, etc., que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui. Nous n'avons pas de machine pour soulever ces blocs aussi loin, voyez-vous. À moins que ce ne soit une force atomique. Avec l'essence, on ne peut pas le faire, ni avec l'électricité, mais c'était un autre âge beaucoup plus ingénieux que le nôtre. Et dans cet âge, Dieu appela un homme dont le nom était Noé, un homme ordinaire, un fermier, parce qu'il avait été trouvé saint dans sa génération. Et Dieu traita avec cet homme sur ceci, construire une arche. Parce que le péché, nous voyons qu'en ce temps, les filles des hommes, la Bible dit, virent les fils de Dieu, virent les filles des hommes. Cela fut discuté, beaucoup d'écrivains pensent que les fils de Dieu étaient les anges déchus qui s'étaient introduits dans des esprits. Je ne vois pas comment un homme peut penser cela. Cela en ferait un créateur, cela ferait de Satan un créateur. Satan n'est pas un créateur. Il est celui qui a perverti toute la création, voyez-vous. Un mensonge n'est que la vérité déformée. L'adultère est un acte juste tourné en mal, voyez-vous. Et cela est exactement ce qu'est le péché. Satan ne peut pas créer. Il peut seulement pervertir ce qui a été créé. Ainsi, c'était les fils de Dieu qui étaient les fils de Seth dans la lignée de Dieu à travers Adam, et les filles de Caïn, Satan, et quand ils virent qu'elles étaient jolies, belles. Et nous remarquons ici que lorsque nous sortons des portraits d'il y a quelques années, disons d'il y a un siècle, que la beauté des femmes maintenant dépasse la beauté des femmes de ce temps-là. Si vous lisez Genèse 6, vous en trouverez une belle image là, elles étaient belles. Et les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus jolies qu'elles ne l'étaient autrefois. C'est à cause de leurs vêtements, de leur allure. C'est ce qui les met en valeur. J'ai un portrait de Pearl White. C'était quand Scott Jackson la tua. Il plongea un couteau dans sa poitrine, l'amoureux caché, et la grande nation fut secouée par la chanson de Pearl White. On disait que c'était la plus belle femme qu'il y ait au monde à cette époque. Eh bien, elle ne serait qu'un déchet dans la rue aujourd'hui à côté de ces femmes. Ou revenez au temps de Clara Bow, quand elle commença à scandaliser en roulant ses bas au-dessous du genou et en disant « Roulez-les, mesdames, roulez-les !» Je me souviens de cela dans ma jeunesse. Prenez donc le portrait de Clara Bow et comparez-le à certaines beautés d'aujourd'hui, voyez-vous. Et cela est un signe des temps de la fin. Jésus a dit, comme il était au temps de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Et elles se dévêtent de plus en plus. Qu'est-ce? Des filles de Caïn. C'est pourquoi on nous considère comme des originaux, des fanatiques, quand nous essayons d'expliquer, de dire la vérité de l'Évangile à ce sujet. Mais elles sont de plus en plus immorales, elles vont dans la rue, elles agissent comme elles le font. Elles ne se rendent pas compte qu'elles vont en répondre au jour du jugement. Maintenant, la femme qui s'habille d'une façon sexy peut être aussi pure qu'un lys vis-à-vis de son mari, de l'homme qu'elle aime ou de son ami. Mais quand le pécheur passe dans la rue et la voit habillée de cette manière, il la désire parce qu'elle s'est présentée à lui de cette façon. Ce ne sont pas les enfants qui méritent une correction, c'est papa et maman parce qu'ils les laissent agir ainsi. Cela, ce n'est pas de la délinquance juvénile, c'est de la délinquance parentale. Et j'ai beaucoup à penser sur la délinquance des prédicateurs parce qu'ils les laissent continuer et ne disent rien alors que cela est dans la parole. Maintenant, dans la Bible, Jésus a dit, quiconque regarde une femme en la convoitant a, dans le passé, déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et quand ce pécheur entre en jugement pour répondre d'adultère, on leur reviendra tout droit à ceci. Avec qui l'avez-vous commis? Avec vous! Bien que vous n'ayez jamais commis cet acte, la Bible dit que de toute façon vous êtes coupable. Qui donc est à blâmer? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Voyez comme c'est sérieux. Dans Jeffersonville aujourd'hui, il y a 99,99% de femmes qui sont coupables devant Dieu. Toute la nation est ainsi. La culpabilité des prédicateurs pour parler aux gens, la culpabilité dans les foyers qui permettent aux jeunes filles de sortir dans la rue en agissant ainsi, et ils disent que c'est bien. Maintenant, c'est exactement ce que Noé devait combattre en son temps. Les filles des hommes étaient belles et les fils de Dieu les regardaient. Voyez, la convoitise de la chair qui vient à nouveau. Mais Noé, oh, nous pourrions rester là pendant des heures. Mais Noé était un homme droit, saint, intègre, et il dénonçait de telles choses. Et on disait qu'il était fou. Les moqueurs, la Bible dit qu'ils se moquaient de lui, qu'ils le raillaient. Mais il disait, un temps va venir où il y aura un orage, l'eau va tomber du ciel. Il n'y avait jamais eu de pluie. Et l'Évangile ne s'accordait pas avec les théories scientifiques de ce temps, car il n'y avait pas de pluie dans le ciel. Et aujourd'hui, la théorie scientifique des groupes modernes soi-disant religieux essaye de prouver que cette chose bénie que nous avons, appelée le Saint-Esprit, n'est qu'une émotion. Voyez, cela ne s'accorde absolument pas avec leur théorie scientifique. Eh bien, je voudrais leur demander ceci. Qu'est-ce qui les fait changer? Qu'est-ce qui fait que l'ivrogne s'arrête de boire? Qu'est-ce qui fait que la prostituée cesse de vivre dans le mal? Qu'est-ce qui fait que le cancer et la maladie quittent les gens? Que les sourds, les muets et les aveugles guérissent et que les morts ressuscitent? Expliquez cela. Est-ce une émotion? Il y a aussi de l'émotion, certainement. Tout ce qui vit est sujet à l'émotion. Et ce qui n'a pas d'émotion est mort. Excusez l'expression, mais je pense alors que nous devrions enterrer certaines de nos religions privées d'émotion parce qu'elles sont mortes. Elles n'ont pas d'émotion. Toute religion qui n'a pas d'émotion devrait être enterrée parce que c'est émotionnel. Quand Jésus entra dans la ville, les enfants et tous ses amis criaient « Hosanna à celui qui vient à ton nom du Seigneur !» Et les gens religieux de cette époque ne pouvaient pas le supporter. C'était trop émotionnel. Il dit, s'ils se taisent, les pierres crieront immédiatement. Voyez-vous? Il fallait que quelque chose crie, parce que la vie était là. Noé passa une période terrible, mais finalement un jour il eut une épreuve. Et tous ceux qui vont avec Dieu ont des épreuves. Votre foi est éprouvée. Et quand vous commencez à vivre pour lui, tous les voisins parlent de vous. Tout commence à aller mal pour vous. Rappelez-vous de cela, car c'est Dieu qui vous éprouve. La Bible dit, les fils qui viennent à Dieu doivent être d'abord éprouvés, châtiés, éduqués. Comme mon père m'éduqua quand j'avais fait quelque chose de mal. On avait les 10 commandements suspendus à la porte. Et il y avait un gourdin, à peu près long comme ceci. Et Monsieur Branham était un homme au bras solide. Et il nous conduisait dehors et il nous éduquait. C'est ainsi que Dieu agit. Il vous éprouve, vous éduque, vous élève parce que vous êtes son enfant. Il y a quelque chose pour vous dans l'avenir, être dans la gloire. Et il vous éduque. Maintenant, tous les fils doivent être éprouvés. Noé, un type maintenant de cette dispensation, eut une épreuve parce que Dieu lui dit d'entrer dans l'arche. Et quand il entra dans l'arche, la porte se ferma. Et Noé, sans aucun doute, dit à sa famille, « Observez demain. » Oh, la porte s'est fermée ce soir, mais au matin, il y aura de la pluie là-haut dans les cieux. Rappelez-vous qu'il n'y en avait jamais eu auparavant. Et les moqueurs, peut-être certains étaient en quelque sorte des demi-croyants, dirent, levons-nous et tenons-nous là. Vous savez que ce vieil homme pourrait avoir raison. Ils se tinrent autour de l'arche, ils attendaient, vous savez, et ils pensaient, eh bien maintenant, il pourrait avoir raison. Et ils y allèrent. Et le matin suivant, le soleil se leva tout aussi beau. Vous savez, et certainement ce que fit Satan au sommet de ce trou dans l'arche, cette fenêtre, il dit, tu crois encore avoir raison? Eh bien, c'est la façon dont le diable agit avec nous tous. Mais aussi longtemps que Dieu a dit quelque chose, tenez-vous-y. Quoi que ce soit,
restez avec ceci. » Le second jour passa, le troisième jour passa, Noé n'en pouvait plus. Mais finalement, après 7 jours, et ce fut le 17 février qu'il entra, et puis après 7 jours, ce matin-là, quand il s'éveilla, le tonnerre grondait, de grandes et grosses gouttes de pluie tombaient. Ceux qui étaient venus et qui étaient restés un jour ou deux pour voir, dirent, eh bien, allons voir s'il arrive quelque chose. Il était trop tard alors. Ils frappèrent et ils crièrent, les rues étaient pleines d'eau. Et l'eau commença à monter vers les sommets. Les gens fuyaient dans les régions élevées. Ils essayaient de monter sur des bateaux, etc. Mais si le bateau n'était pas construit par Dieu, les grands et puissants tremblements de terre de ce moment-là les envoyaient tout droit au fond des eaux. Vous dites, tous, mais si j'ai une religion, tout va bien. Non, absolument pas. Il faut que ce soit une expérience construite par Dieu dans la religion. Voyez-vous, tous les autres périront. Je ne dis pas cela pour être différent. Je le dis seulement à cause de l'amour, sachant que j'aurai à répondre en ce jour que je serai responsable. Aussi, si je dis seulement ce qu'il dit, alors je sais que j'ai raison. Mais si j'essaye d'y mettre le credo de quelqu'un ou une théorie, je ne pourrai pas le faire. Je n'aurai pas de foi en cela. Je crois seulement ce qu'il dit. Maintenant, remarquez que les eaux étaient de plus en plus profondes et montaient au plus haut. Ils frappaient à la porte, hurlaient, criaient. Ça ne servait absolument à rien. Peut-être que quelques jours auparavant, quand ils firent entrer les animaux, j'aurais pu entendre les moqueurs dire « Continuez là-dedans avec vos animaux qui sentent mauvais. Vivez avec tout ce qui sent mauvais là-dedans si vous voulez. » C'est exactement comme aujourd'hui. Ils vous disent la même chose. « Continuez, soyez démodés si vous le voulez. Nous, nous allons vivre. Continuez, laissez aller. Mais ô frère, être en sécurité dans l'arche, avec la porte fermée, voilà ce qu'il faut. » Mais Noé, à son époque, c'était difficile pour lui dans sa dispensation, voyez-vous, parce que les gens n'avaient jamais entendu parler d'une chose pareille. Mais cela arriva malgré tout. Puis nous voyons ce qui arrive, ce qui arriva après la délivrance de Noé, etc. Et la terre commence à grandir nouveau et tout ce qui avait un souffle de vie périt. Et puis nous voyons encore qu'il arriva un temps quand Dieu fit sortir ses enfants d'Égypte, que Moïse vint avec la loi. C'était très difficile à comprendre pour les gens. Mais une dispensation se transformait en loi. Et puis après que la loi vint, Moïse essayait. C'était un maître d'école. Les gens vivaient exactement comme ils voulaient. Aussi le maître d'école, la loi, dit la Bible, était pour amener les gens à reconnaître que c'était mal. Et il leur donna les 10 commandements. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Les gens ne voulaient pas le recevoir, c'est vrai. Et puis après Moïse vint Jean, et après Jean vint la dispensation, il annonçait Jésus. Et quand Jésus vint pour essayer de nous apporter la grâce qui était Dieu dans l'esprit, dans la ligne de l'esprit, il manifesta son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Et Jésus était si différent et contraire à la loi. Voyez, c'était une dispensation différente, un temps différent. Puis Jésus partit. Il parla de cette dispensation du Saint-Esprit, la vie à l'intérieur, un témoin de lui ressuscité. J'ai beaucoup de passages des Écritures ici, mais je n'ai simplement pas le temps de m'y arrêter. Je vais en parler brièvement. C'est bien. Cela a toujours été un fait et un combat quand une dispensation change d'une ancienne dispensation en un message du temps présent. Cela a toujours été un combat pour les gens. C'est bien que ce soit toujours selon les Écritures, bien que ce soit toujours selon les Écritures. Mais pendant ce temps, Dieu leur donne une dispensation et quelque chose par quoi ils puissent vivre ou quelque chose à faire. Maintenant, nous découvrons qu'aussitôt après que la dispensation soit donnée, les hommes sur la terre essayent de trouver quelque chose pour déjouer cela et quelque chose qui en fasse une affaire faite par l'homme. Immédiatement après que Noé eut l'arche, Nimrod se renégat, construisit une tour et dit « Si les flots montaient, nous pourrions grimper et être au-dessus d'eux. » Et alors Dieu vient avec la loi qui juste... voyez, cette dispensation a terminé son temps. Et quand Jésus vint aussi après la loi parlait de Moïse et parlait de la venue de Christ, mais quand il vint, ils étaient tellement dans la tradition des pères, ils avaient leurs croyances, ils avaient leurs habitudes, ils avaient leurs églises, Ils étaient habitués au qu'il fut très dur pour Jésus d'essayer d'arracher ce royaume, cette église, à un credo pour qu'ils croient en lui. Et pourtant, les Écritures parlent tout particulièrement de celui-ci, depuis la première dispensation de l'Éden. Sa postérité écrasera la tête du serpent. Jésus était promis à travers chaque dispensation, et quand il vint, ils ne le reconnurent pas, tant ils étaient liés par leur credo. Mais pourtant, c'était la vérité scripturaire. Chaque messager et son message annonçaient l'autre qui allait suivre, à chaque fois. Moïse annonça la venue de Jésus. Moïse dit, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. » Oh, combien de fois n'avons-nous pas expliqué cela dans nos messages à travers le monde, que le Messie à venir serait un prophète. C'est pourquoi la femme de mauvaise réputation contre tous les prêtres, elle crut au message. La femme à Samarie, quand Jésus lui parlait, il dit, « Donne-moi à boire. » Elle dit, « Tu n'as rien pour puiser. Ce n'est pas la coutume que tu me demandes à moi, une Samaritaine. » Et la conversation continua. Alors il dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle dit, « Tu n'en es pas. » Il dit, « C'est juste, tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Elle dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Maintenant, nous savons qu'un changement de dispensation va venir. Il en vient un qui sera oint, qu'on appelle le Messie, le Christ de Dieu. Et quand il viendra, il sera ce prophète. Cette femme en connaissait beaucoup plus que tous les prédicateurs de ce temps, certainement. Et elle, dans sa condition, voyez, elle comprenait les Écritures. Pourtant, une pauvre petite femme, Maria Saint-Marie, et vivant avec un sixième, avait plus de connaissances des Écritures parce qu'elle les prenait pour leur valeur nominale. Elle dit, « Quand il viendra, il sera un prophète. » Que lui dit Jésus, « Je le suis. » Elle laissa sa cruche, elle courut dans la ville pour dire, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-il pas le Messie ?» Voyez-vous, c'est lui. Maintenant, voyez, elle savait qu'il devait venir, parce que les prophètes et les Écritures au jour de Moïse, au jour des prophètes et tout au long des temps, dans chaque dispensation avaient dit, « Il sera ici et voilà ce qu'il sera. » Oh ! Si seulement les gens pouvaient voir ce jour-là, alors ils connaîtraient le jour dans lequel nous vivons. Ils verraient que c'est la promesse de Dieu pour ce jour-ci. Dieu a dit que ce serait ainsi. Il n'y a pas d'erreur. La grande horloge de Dieu marque exactement l'heure qu'il est. Et même selon la science, il est minuit moins 3 minutes. Ainsi vous voyez, l'heure peut arriver à n'importe quel moment. Et il y a déjà 2 ou 3 ans qu'ils ont dit cela. Voyez, nous sommes à la fin des temps. Mais vous voyez, nous avons changé de dispensation. Depuis ce vieil âge de l'Église, ces tristes jours où c'était simplement se joindre à une Église, inscrire son nom dans un livre, jusqu'à la lumière du soir, la restauration, le retour du Saint-Esprit sur la terre, une autre Pentecôte, un autre signe, quelque chose d'autre allait prendre place. Et les gens ne le croient pas, parce qu'ils sont aussi installés qu'ils l'étaient au temps de Jésus. Voyez-vous, il parla de ce jour-ci quand il était ici sur la terre. Il vint exactement selon les Écritures, puis il annonça la venue de ce jour-ci. Maintenant, nous voulons penser à autre chose ici. Si vous voulez le lire, c'est dans Matthieu 24. Jésus parla de ce jour-ci. Il dit que les Juifs se rassembleraient à nouveau dans ce dernier jour. Il dit, quand vous verrez les bourgeons du figuier pousser, alors sachez que le temps est proche. Il dit, ce sera un temps de confusion, la détresse entre les nations, la mer grondera, les hommes seront frappés, leur cœur sera dans le trouble constamment. Pas parmi les femmes maintenant, c'est parmi les hommes. Jésus n'a jamais dit, la femme, l'homme, voyez les fléaux. Et ce qui se passera en ce jour-là, ce sera le signe du temps de la fin. Les cœurs qui chancellent, la peur, l'angoisse, l'Apocalypse nous en parle. Le prophète parlant de ce jour dit qu'il viendrait un temps où l'Église serait tiède. L'âge de l'Église de la Odyssée au dernier jour, voyez-vous? Qu'est-ce? C'est Jésus, le dernier âge, prédisant la fin de cet âge. C'est exactement comme en Éden, comme au temps de Noé, au temps de Moïse, puis au temps de la loi, et ensuite au temps de la grâce, et maintenant au temps du soir. Il y en a beaucoup d'autres là, si nous avions le temps, mais je les passe, parce que nous n'avons pas le temps. Et chacun demande ce qu'il y aura dans l'âge suivant, mais l'Église devient si cléricale, avec leurs credos, avec leurs dogmes, et leurs faux-semblants, et leurs théories d'hommes, qu'ils laissent échapper cette parole. Maintenant, vous pouvez voir ce que l'évangélisation du temps de la fin va être. Voyez-vous? Ceux qui la portent seront traités de fous. Ils seront si différents. Ils l'étaient au temps de Noé. Ils l'ont toujours été. Chassés de leurs églises parce qu'ils croient en Jésus. Tous ceux qui l'écoutaient devaient être excommuniés de leur église. Voyez-vous? Mais il avait cette dispensation qui était son temps, la dispensation du Fils. Maintenant, nous trouvons aussi que le glorieux Saint-Esprit a prophétisé cela. Si vous désirez noter quelques-uns de ces passages des Écritures, Matthieu 24 et 2 Timothée 3:1, le Saint-Esprit parle d'un grand âge intellectuel à la fin des temps. Saviez-vous cela? Pourquoi est-ce? Joseph, tu as beaucoup voyagé avec moi dans le pays ici. Tu as entendu parler des réunions outre-mer. Je vais outre-mer et j'ai 150, 200 000, 500 000 personnes. Et les gens sont juste une chose que vous voyez faire chaque jour aux réunions ici au tabernacle. Et là-bas, jusqu'à 10, 20, 30 000 tomberont sur leurs pieds ou de leurs pieds pour rendre gloire à Dieu. Ils le voient. Et pourquoi donc cela n'arrive-t-il pas en Amérique? Ce sont des intellectuels. Ils veulent quelqu'un qui ne parle pas de jugement, qui ne parle pas de ces choses, parce que cela les éloignerait de leurs réunions, de leurs clubs et de leurs loges et des choses impies auxquelles ils appartiennent. En conséquence, si leur pasteur parlait de quelque chose comme cela, l'ensemble des diacres le chasserait et mettrait quelqu'un d'autre, un jeune Ricky ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez cela, je ne voulais pas dire cela, mais quelquefois je suis trop passionné, je crois. Mais je veux dire, Ricky n'est pas un mal. Je n'aime pas ce nom, c'est vrai, mais si vous le regardez dans la numérologie, vous changerez le nom de votre enfant. Oui, monsieur. Maintenant, Ricky ou Elvis ou quelque chose comme cela, non merci. Aussi, de toute façon, vous voyez, cela devait arriver. Il ne laisse pas passer ces noms-là, il fallait que cela arrive. C'est l'âge dans lequel il faut qu'il soit. C'est tout à fait vrai. Maintenant. Et maintenant, l'Esprit dit. Maintenant, écoutez, je vous cite un passage des Écritures. Maintenant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, voyez, les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, etc. Voyez-vous? Voyez comment ils seraient emportés, orgueilleux, des personnages importants, des gros bonnets. Excusez ceci, mais vous savez ce que nous appelons des gros bonnets, l'expression de la rue maintenant. Mais nous savons tous mieux le dire comme cela. Emportés, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu. J'étais là hier, regardant la piscine juste au-dessous de nous, et je réfléchissais. Quand un homme qui enseigne à l'école du dimanche m'a dit, c'est contre les règles de l'hygiène quand Jésus cracha et se servit de son crachat. Il était là, parlant le grec original dit, il cracha par terre, parlant à cet homme et crachant à terre. Après cela, de sa main, il ramassa le crachat avec la poussière et le frotta sur ses yeux et humecta ses yeux et dit, va te laver à la fontaine de Siloé, envoyée, et tes yeux s'ouvriront. Il alla se laver et ses yeux s'ouvrirent. Ainsi cet homme me dit, ça ne marcherait pas aujourd'hui, c'est contre les règles de l'hygiène, les règles de la santé. Et ce même homme conduit sa famille, sa femme, tous ses enfants à cette piscine où tous ces hommes et ces femmes sont dans cette eau à des moments du mois où ils ne devraient pas y être. Et tout cela, ils ne vont jamais dans une salle de douche quelquefois. Et tous ces corps sales, et la saleté est là-dedans. Et ils crachent l'eau de leur bouche et les yeux et tout cela. Puis ils parlent de Jésus crachant à terre et rendant la vue à un homme. J'ai ramené un petit garçon de là l'autre jour. Il m'a dit, j'ai avalé de cette eau et je suis malade comme une bête. Je rentre à la maison. Ce petit garçon est peut-être ici, assis ici. Maintenant, il vit dans une roulotte un peu plus loin, là-bas dans la rue, où je l'ai ramené. Il dit, je n'y retournerai plus jamais. Mais pourtant, c'est ce qu'on appelle la civilisation moderne. Voyez où vous en arrivez? C'est le vieux dicton. rejeté le moucheron et avalé le chameau. Voyez, je voudrais bien le rencontrer maintenant. Maintenant, vous y êtes. Il vaut mieux vous éloigner de ces choses, voyez-vous. Intellectuel, emporté, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu. Je cite les Écritures. Le Saint-Esprit dit expressément que cela arriverait à la fin des temps. Emporté, orgueilleux, ayant une forme de... Eh bien d'abord, ils seront intempérants, ennemis des gens de bien. Ils haïront ceux qui croient en la parole. Les voyez-vous? Ils ne sont pas d'accord avec ces credos traditionnels et ces choses. Aussi, ils les haïssent. C'est comme ces pharisiens et ces sadducéens qui haïssaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était... Il contredisait leur credo, voyez-vous? Non pas qu'il voulait être différent, mais il devait vivre. Il était la parole vivante en vie. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas, voyez-vous? Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Si un homme prêche ces choses et que cela n'arrive pas, alors c'est faux, parce que les Écritures disent qu'elles arriveraient. Et si cela arrive, alors c'est juste. Ce n'est pas l'homme qui est juste, mais c'est la parole. Maintenant, c'est la condition dans laquelle nous entrons aujourd'hui. Vous voyez, mes amis, c'est aussi raisonnable. Le voyez-vous? Je construis ici pour vous montrer la gradation ici dans l'évangélisation du temps de la fin. Maintenant, remarquez en ce temps, dans cet âge intellectuel, emporté, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu, il reste à la maison le mercredi soir pour regarder ces vieilles pièces vulgaires. Nous aimons Suzy ou Lucie et toutes ces histoires, une femme mariée une douzaine de fois, vivant avec un homme, puis ceux qui vivent, oh, tous mariés, divorcés, puis remariés, divorcés, et vous en faites des idoles comme des dieux. Mais vous préférez rester à la maison et regarder cela plutôt que d'aller à la réunion de prière. Aimant le plaisir plus que Dieu, qu'il y a un bal dans la ville, où les colonels et les géants, ou quoi que ce soit, qui se réunissent ici quelque part, ils ferment les églises pour pouvoir y assister. Qu'Elvis Presley vienne ici dans la rue avec sa guitare et qu'il commence à se trémousser ou un autre de ses chanteurs, qu'il vienne le mercredi soir et les réunions de prière seront supprimées. Aimant le plaisir plus que Dieu, emporté, orgueilleux, intempérant, cruel et ennemi des gens de bien, ayant une forme de piété. Vous dites, ce sont les communistes. Mais non, ce ne sont pas eux. Ce sont les membres de l'Église, ayant une forme de piété. Mais quoi? Reniant ce qui en fait la force. Ayant une forme de Dieu, mais ils disent, Dieu ne fait pas ces choses. Voyez, il n'y a pas de puissance là. Vous acceptez simplement et vous faites ceci et cela. Voyez, il n'y a pas de changement de vie, il n'y a rien. C'est juste, juste appartenir à une Église. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. C'est exactement ce que la Bible dit. Maintenant, nous vivons exactement dans cet âge. Mais toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Voyez, c'est cela. Maintenant, par ces messagers, ces témoins que nous voyons, nous savons dans quelle moisson nous sommes. Regardez dans quelle moisson vous êtes ce matin. Regardez dans quelle moisson vous êtes. Parce qu'il dit, de ce côté-ci, ces signes suivront ceux qui croient. On se moquera d'eux, on les méprisera comme au jour de Noé. Et voici que revient cet autre groupe qui se moquera d'eux, emporté, orgueilleux, ayant une forme de piété, reniant la chose même que vous professez. Ainsi, vous pouvez voir de quelle moisson vous êtes. Ces vrais messagers d'aujourd'hui, Jésus a prédit que cela serait Satan avec son message. Et son message aurait cette qualité, ces signes suivront ceux qui croient. Voyez, les messagers de Satan auraient une forme de piété. Ces messagers auraient ces signes. Prendre des serpents, boire des breuvages mortels, chasser les démons, imposer les morts malades, recevoir le baptême du Saint-Esprit, des signes et des miracles. Maintenant, nous sommes dans l'une de ces moissons et nous sommes à la fin des temps. Oh, mince! Il n'est pas étonnant que le prophète Ésaïe dit « Tout le corps n'est que blessure et plaie vive. » Tout cela. Où pouvons-nous aller? Que ferions-nous si nous fusionnions tous ensemble? Ce serait pire encore que jamais, voyez. Il y aurait toutes sortes de choses. Ils essayent de... Le Conseil mondial des églises, ça ne marchera jamais. Ils ont des athées, des incroyants. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble, dit la Bible, à moins qu'ils ne soient d'accord, voyez-vous? Et il n'y en a pas deux parmi eux qui soient d'accord. Le salut est une affaire individuelle. Entre, non pas une église, mais entre chaque individu et Dieu. Marcher avec la parole. Regardez, frère, comme nous le voyons, je sais que je suis terriblement en retard, mais remarquez le grand signal lumineux, rouge de sa venue est là. Nous savons cela. Je pourrais prendre beaucoup de passages des Écritures que j'ai notés ici pour vous montrer que nous sommes à la fin des temps. Les Juifs sont retournés en Palestine, les bourgeons du figuier poussent, les hommes rendent l'âme de terreur, les femmes... Comme elle se comporte, je pourrais retourner à l'Apocalypse et vous montrer que cette nation est marquée par la femme. Le nombre de la femme, le nombre 13. Nous avons eu pour commencer 13 colonies, 13 rayures, 13 sous, 13 états, tout, 13, 13 étoiles sur le dollar, tout est 13, et une femme. Quand j'étais, il n'y a pas longtemps, en Suisse, et que je parlais, et une femme dit, je sais que nous voulons aller en Amérique pour avoir la liberté comme les femmes là-bas. Je leur dis ce qu'elles faisaient. Non, dirent-elles. Alors nous ne voulons pas cela alors. Voyez-vous. Mais c'est l'Amérique. Nous pouvons reprendre ici et vous montrer tout de suite que l'on pense que c'est dans cette nation qui monte, où il n'y a pas d'eau, pas de peuple. Elle monte comme un agneau, avec deux petites cornes, le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Mais ils sont assemblés par le pouvoir politique. Nous avons un nouveau président. Il ramène Rome. Je veux que quelqu'un, théologien ici ou n'importe où, me dise où la Bible ait jamais prédit que le communisme dirigerait le monde. N'ayez pas peur du communisme. Il n'y a rien là. C'est un faux semblant dont Dieu se sert pour châtier les nations, c'est sûr. La Bible dit que Rome dirigera le monde. Regardez le roi Nebuchadnezzar, son rêve, sa vision, l'interprétation de Daniel, comment chacun de ces royaumes et chacune de ces dispensations tombe parfaitement et juste à la fin, il y avait Rome. Ainsi, ce sera Rome, ce ne sera pas le communisme. Il n'est qu'un décor, c'est tout. Ils n'iront nulle part. Non, ils n'iront pas. Comme Joseph l'a dit, au cœur de l'Afrique, ces pauvres païens, on ne va pas les gouverner, ils sont déjà gouvernés. C'est ce qui leur arrive aujourd'hui. Ils ont été dirigés. Ils veulent de l'amour, ils veulent Dieu, et parce que le communisme est sans Dieu, ils ne l'accepteront jamais, certainement pas, c'est sûr. La lumière rouge étincelle, le signal est là, sa venue est proche. Oh, Ésaïe chapitre 60, verset 2 dit, « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Et c'est tout à fait juste. Le messager du temps de la fin et le message doivent se rencontrer avec les conditions du temps de la fin. Ne croyez-vous pas? Ce message n'aurait pas pu être prêché il y a 40 ans. Non, il fallait que le message du temps de la fin et le messager se rencontrent. Autrefois, dans les jours anciens, ça n'aurait certainement pas marché. Mais il faut qu'ils s'accordent avec les conditions du temps de la fin. Soyez convertis, croyez les signes de l'Évangile. Voilà le message d'aujourd'hui. Lavez votre âme dans le sang de l'agneau et croyez l'Évangile. Les signes du temps de la fin sont ici. La semence de l'Évangile a pris sa place. Ils parlent tellement de réforme. Je serai de leur avis en cela. La réforme de l'Évangile. Réformer signifie être nettoyé complètement. Aussi, je pense que nous avons bien besoin d'un grand nettoyage de nos incrédulités et de croire à l'Évangile. C'est juste. Nous nous méfions trop et nous nous posons trop de questions. Réformez-vous. Même le mot normal dans la traduction grecque qui dit « repentez-vous » ne signifie pas réformer, car réformer signifie nettoyer complètement tout ce qui est en arrière, le passé. Croyez l'Évangile dans sa puissance et sa manifestation. Ces signes suivront ceux qui auront cru, ils disent. Oh, seulement pour cet âge-là. Il a dit, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, quelqu'un a raison. Si l'homme qui est un incroyant dit que ça n'était que pour les apôtres, et si Jésus lui-même dit, jusqu'à la fin du monde, alors prenez sa parole comme bonne. C'est juste. Dieu veut que son peuple soit séparé de l'incrédulité et des incrédules. Tant d'entre vous se trompent à ce sujet, quelquefois laissent leurs enfants jouer ici avec un petit Oswald, voyez-vous. Je ne veux pas dire qu'il faut être différent maintenant, ou guindé, etc., être une sorte de fanatique, je ne veux pas dire cela. Mais vous laissez un, soyez sûr avec qui votre fille sort le soir, voyez-vous. Peut-être l'avez-vous élevée comme une petite fille pieuse allant à l'église. La première chose qu'elle fait, c'est de sortir avec Oswald ou un autre. Et ils sont un croyant ou athée, et sa vie sera gâchée. Et vous ne savez pas ce qu'il est, voyez-vous. Alors il l'épousera, et voyez où vous en êtes avec vos petits-enfants alors, voyez. Soyez prudents. Dieu veut que son peuple soit séparé. Lisez une fois Exode 34:12, et voyez ce que Dieu dit à Israël. Quand tu entreras dans ce pays, détruis tout ce qui est là. N'ayez pas une seule chose en commun. Josué aussi, chapitre 23, verset 12. Regardez ce que Josué a dit. Maintenant, Dieu vous a conduit dans ce bon pays, comme l'Église maintenant, et vous a amené à ce bon pays. En êtes-vous heureux? Ils dirent, Amen, nous en sommes heureux. Il dit, maintenant, il y en a qui restent de ces incroyants ici. Ne vous unissez pas à eux, n'allez pas avec eux. Et sœurs, si ce garçon veut vous amener dans un petit bar quelque part, simplement vous prendre quelque chose en copain, n'allez pas avec lui. Et la même chose pour vous, garçons, vis-à-vis de cette fille qui ferait l'appareil. Éloignez-vous d'eux. Maintenant, vous allez dire, frère Branham est un vieil original, mais un de ces jours, vous vous rendrez compte. Vous aurez suivi la trace que j'ai suivie. Vous saurez que ceci est juste. Oui, monsieur. Combien de fois n'ai-je pas vu des jeunes filles venir avouer leur honte? Elle sera marquée jusqu'à la fin de sa vie et les choses qu'elle a dites. Elle a été élevée dans un bon foyer chrétien, mais voici ce qui arriva. Elle est sortie avec un garçon. Il était tellement bien. Elle ne pouvait pas rester loin de lui. Et tout cela ainsi. Et dès le départ, il fumait des cigarettes et avait une bouteille dans sa poche. Et ils se sont mis à boire. Et vous y êtes, voyez-vous? Et là, elle est dans la honte. Oh, cela fait pitié. Vous le voyez des deux côtés, aussi restez loin de cela. Séparez-vous. Soyez gentils et bons avec tout le monde, mais ne prenez pas part à leurs péchés. Éloignez-vous-en. Oui, monsieur. Et ce sont toujours les dirigeants, mes amis, qui à chaque fois, pendant les changements apportés par ces dispensations, embrouillent tout le monde. Ce n'est pas tellement les gens. Si seulement l'Évangile était resté dans la chair où il doit être. C'est comme quand je parlais au Bethany College là-bas, chez les luthériens. Il dit, frère Branham, que pensez-vous que nous avons? Et je dis, eh bien voici ce que c'est. Il dit, quelle est la différence entre cette Pentecôte dont vous parlez et nous les luthériens? Je dis, l'église pentecôtiste est simplement l'église luthérienne avancée. C'est parfaitement vrai. Si vous étiez resté où vous auriez vu, vous seriez pentecôtiste aussi. Et nous parlons tous comme quelqu'un que j'ai entendu dire ce matin que toutes les églises, toutes les religions au début, tous les chrétiens viennent en réalité de Rome. Je voudrais que quelqu'un me prouve cela. J'admettrai que toutes les dénominations viennent de Rome, mais les chrétiens ont commencé à Jérusalem. Aussi, si la hiérarchie catholique veut que nous revenions tous au christianisme du début, je serai d'accord en cela. Retournons à la Pentecôte et ayons tous le Saint-Esprit. Je serai d'accord sur cela. Cela n'est jamais venu de Rome. Cela vient de la Pentecôte. L'Église ne fut pas inaugurée à Rome, elle fut inaugurée le jour de la Pentecôte. C'est certain, pas sous leurs dogmes, mais sous le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que j'essaye de dire. Si nous retournons en arrière, retournons au commencement, alors ne retournons pas à la dénomination. Vous allez vers Rome, parce que c'est la première qui eut une organisation où une dénomination est la mère de toutes. Et la Bible dit, dans l'Apocalypse 17, elle est une prostituée elle-même et la mère des prostituées, ses filles. Voyez-vous, c'est ce que dit la Bible. Jésus-Christ a dit que cette église catholique romaine était une prostituée et que toutes ses filles protestantes étaient prostituées avec elle. Et il a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour que vous ne participiez pas à ses péchés et je vous recevrai et vous serez mes fils et mes filles. Voyez-vous? Ainsi, vous y êtes, voyez, ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force, etc. vous, chers méthodistes, comme vous aviez une puissance de Dieu parmi vous, je suis allé et je portais le vêtement de John quand je suis allé à Londres, en Angleterre, pour prier pour le roi George cette fois-là. Et on m'a conduit à la chapelle de Wesley, où il prêchait à 500 personnes tous les matins à 5 heures, avant que les hommes n'aillent au travail. Je me suis assis sur un siège où il a converti ce spécialiste des combats de coq, et je me suis assis sur ce siège, et je me tenais là, et je suis monté dans sa chaire, et j'ai prié dans la pièce où il partit pour le ciel. Je pensais, oh, si John savait ce qu'a fait l'église méthodiste, il se retrouverait dans sa tombe. Quand tu priais pour les malades et avais de grands signes, quand John Wesley, debout là, à côté de ce tombeau où il y a un arbre, ce jour-là, il prêchait la guérison divine. Et là, la haute église, l'église anglicane, se retourna. Certains de ses membres vinrent et laissèrent échapper un renard et des chiens pour disperser la congrégation de John. Et ce bon John n'a jamais pesé plus de 60 kilos dans toute sa vie. Mais il se retourna en les montrant du doigt et dit, « Vous, hypocrites, le soleil ne se couchera pas trois fois avant que vous ne m'appeliez pour prier pour vous. » Et il mourut ce soir-là des crampes dans tout le corps, appelant John pour qu'il vienne prier pour lui. Et il mourut, voyez-vous. Oh, si vous, méthodistes, vous étiez des méthodistes comme cela, vous seriez de la Pentecôte, c'est juste. Et vous, les baptistes, vous courez jusqu'à l'église pour quelques minutes. Et si le pasteur prêche plus d'un quart d'heure, vous voulez le renvoyer. John Smith, le fondateur de l'église baptiste, priait des nuits entières, pleurait sur les péchés des gens jusqu'à ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Et sa femme le menait jusqu'à la table et lui faisait prendre son repas avec une cuillère. On ne peut plus prier aujourd'hui plus d'un quart d'heure. Pourquoi cela? Voyez, les traditions y sont mêlées. Le message continue à avancer. Israël suivit la colonne de feu. Ils s'arrêtaient où elle s'arrêtait. Ils allaient où elle allait. La colonne de feu avance, oui. Maintenant, nous voyons que ce sont les dirigeants qui font cela. Les dirigeants ont toujours été là pour faire le mélange. Regardez le vieux datant au temps de la Bible, dans la dispensation de la loi de Moïse. Ce fut celui qui dirigea la multitude mélangée datant. C'était Corée. Quand Dieu suscita son prophète Moïse qui avait la parole du Seigneur, il avait 2,5 millions de gens là-bas dans le désert et Jéthro vint et dit, « Moïse, ce fardeau est trop lourd, il va te tuer. » Et Dieu prit une partie de son esprit et le mit sur 70 anciens et il prophétisait. Cela n'a jamais affaibli Moïse, mais Moïse avait toujours le dernier mot parce qu'il avait le « Ainsi dit le Seigneur ». Vous ne pouvez pas suivre un groupe d'hommes. Je nie que ce soit jamais arrivé. Dieu ne s'est jamais servi d'un groupe d'hommes. Il se sert d'un seul homme. Exactement. Un seul homme à la fois, parce que deux hommes ont deux opinions. Un seul homme, c'est absolument juste. Remarquez maintenant, cela a toujours été comme cela pour chaque dispensation. Cela a toujours été comme ça depuis le commencement. Cela a été comme cela à chaque fois. Et Moïse se tenait là. Et savez-vous ce que dit Corée? Il dit, eh bien, Moïse agit comme s'il était le seul à pouvoir prêcher. Comme s'il est le seul à avoir un message. Or, nous savons que la colonne de feu est au-dessus de lui. Nous savons que cette lumière est au-dessus de lui. Mais il agit comme s'il était le seul à avoir un message. Il ne voulait pas dire cela. Il ne voulait pas le dire de cette façon. Il essayait de corriger les gens. Il y a de trop nombreuses idées. Il faut que vous écoutiez quelque chose. Et qu'arriva-t-il? Dieu dit, séparez-vous simplement de lui, parce que je vais faire que lui et ta congrégation soient avalés par la terre. Et la terre s'ouvrit. Le feu en sortit et ils s'enfonçaient. Voyez-vous, ceux qui sont mélangés, les dirigeants, ce sont eux qui causent des problèmes parmi les gens. Si ce n'était pas ainsi, aujourd'hui, nous pourrions venir ici dans cette ville et toutes les églises et les congrégations pourraient venir ensemble. Aussi, on aurait cet endroit, on aurait, oh, tous les débits de boissons seraient fermés. Cette ville serait au régime sec, au point qu'un bootlegger pourrait passer une demi-heure pour obtenir suffisamment de liquide pour pouvoir cracher. Voyez-vous? Eh bien, ce serait ainsi. Oh, excusez-moi, je n'aurais pas dû dire cela. Attendez, mais ceci, ce que je veux dire est ceci. Nous sommes tous dispersés, ce sont les dirigeants. Dieu peut venir pour faire quelque chose et les dirigeants de ces petits groupes craignant que quelque chose ne se perde, resteront, s'éloigneront de cela au lieu d'accepter le message de Dieu. C'étaient les dirigeants au jour de Noé. C'étaient les dirigeants au jour de Moïse. C'étaient les dirigeants au jour de Jésus. Ce sont les dirigeants aujourd'hui dans le Saint-Esprit. Les multitudes confondues, ils disent, oh, laissons les femmes faire cela. Comme je l'ai dit, je crois ici auparavant, quelqu'un m'a dit l'autre jour, parce que j'essaie toujours de garder mes sœurs dans le droit chemin. Voyez, elles sont la cible. Elles ont été la cible dans tous les âges. Satan s'est servi d'elles dans le jardin d'Éden et il se sert d'elles chaque fois. Et quand la Bible montre l'Amérique et ses femmes dans les derniers jours, alors je commence à m'acharner. Et quelqu'un m'a dit, frère Branham, les gens vous considèrent comme un prophète. J'ai dit, je ne le suis pas. Il dit, mais on vous considère comme cela. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens comment avoir de grands dons spirituels? Ne leur enseignez-vous pas des choses si vous, Dieu est avec vous, nous savons cela. Il dit, pourquoi n'enseignez-vous pas à ces femmes au lieu de toujours les réprimander? Je dis, voilà 31 ans que je prêche pour elles. Elles sont, comment puis-je les enseigner? Comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne connaissent même pas l'ABC? Pourquoi ne veulent-elles pas se conduire à agir comme des femmes? Pourquoi continuent-elles à agir comme elles le font? Comment pouvez-vous enseigner des choses spirituelles quand elles ne croient même pas aux choses naturelles? Comment pouvez-vous leur enseigner ces choses? Que l'Église atteigne ce royaume, et alors dans ce royaume, ils peuvent apprendre comment recevoir les dons de Dieu et comment manifester ces dons et toutes ces choses. Mais le Saint-Esprit ne les laissera jamais arriver avant que ce cœur ne soit droit et prêt à le recevoir. Alors Dieu se tient là comme une grande pression. N'ayez pas peur s'il y en est trop. Vous ne pouvez pas épuiser Dieu. Pouvez-vous imaginer un petit rat long comme ça, ou une petite souris dans les grands greniers d'Égypte disant, il vaudrait mieux que je ne mange qu'un grain de blé par jour, je pourrais en manquer avant la prochaine récolte. Pouvez-vous imaginer un petit poisson long comme ça, nageant au milieu de l'océan disant, il vaudrait mieux que je ne boive pas trop de cette eau parce que vous savez, elle pourrait tarir. Oh, c'est essayer d'épuiser la bonté de Dieu et sa miséricorde envers son peuple. Il désire vous bénir. Il est prêt. Il donne sa pression. Pouvez-vous imaginer de prendre toute l'eau sur la terre, les mers et tout, et la mettre et la presser dans un tuyau de 4 pieds? La pression s'exercerait, essayant de trouver une petite fente pour en sortir. C'est comme la pression du Saint-Esprit essayant d'entrer dans chaque vie. Mais ils ne le feront pas. Ils aiment les credos et ces choses plus qu'ils n'aiment Dieu. Vous devez abandonner les choses du monde et croire Dieu. Cela ne peut être nié. Vous l'avez vu, année après année, moment après moment. Et Joseph dit un jour, ça ne manque jamais. Il faut que ce soit Dieu, voyez-vous? Et c'est la promesse de Dieu pour ce jour. Pas moi, je ne suis pas la promesse de Dieu. Je suis un homme. Je parle de son Saint-Esprit qui est ici. C'est cela la promesse pour ce jour. Partout. Tout le monde. Maintenant, nous trouvons que c'était cela. Et regardez. Et nous prendrons par exemple Balaam. Balaam, il arriva et enseigna sa doctrine au peuple. Et ils dirent, maintenant, regardez, nous sommes tous des croyants. Nous sommes les enfants des filles de Lot, Moab là-bas. Ils dirent, nous sommes tous les mêmes. Et il les mélangea. Et il y eut des mariages mixtes. Il fut la cause que de jolies femmes, moabites, bien arrangées, vinrent et dirent à ces fils de Dieu, qu'ils étaient tous pareils après tout. Dieu est le Dieu de toutes les races et tout est bien. Et il les maria ensemble. Et Dieu tira une ligne de séparation et leur fit quitter leur maison et toutes choses. Qu'était-ce? Voyez-vous cette chose? Exactement ce qui arriva auparavant, avant le déluge, quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils les désirèrent. Ils les prirent pour femmes. Voyez-vous? La même chose arriva là. Et c'est la même chose maintenant. C'est à nouveau la même chose. Vous devriez le voir. Chaque génération indique ce qui arrivera à la prochaine. C'est ici. Nous le voyons. Nous savons que c'est la même chose. Parce que la Bible ici déclare que c'est maintenant pareil à ce qui était auparavant. C'est juste. Maintenant, et tout cela compte évidemment pour le jour dans lequel nous vivons. Maintenant, l'appel de ce jour, tout ce qui compte dans les églises aujourd'hui, sont les membres. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des membres. Maintenant, nous savons tous que le slogan baptiste en 1944 disait « Nous en aurons 1 million de plus en 44 ». Nous connaissons notre précieux frère Billy Graham, nous voyons sa place dans les Écritures, où il va, ce qu'il fait, mais c'est toujours décision. Tant de décisions ont été prises. Seulement la dénomination, c'est tout ce qu'il désire, voyez-vous. C'était ainsi au temps de Jésus, la même chose. Ce ne sont pas de mauvais hommes, ils étaient aveugles, c'est tout. Ils étaient aveugles à la vérité, Jésus leur a dit. Il a dit, vous, pharisiens et sadducéens aveugles, tout ce que vous faites, qu'a-t-il dit que vous faites? Vous, scribes et pharisiens, vous êtes aveugles. Il ne dit pas, vous êtes des pécheurs. Ils étaient des pécheurs, mais pas ce que nous appelons péché. Maintenant, ce que nous appelons péché, commettre l'adultère, fumer, mentir, voler, des choses ainsi, c'est le péché. Mais cela n'est pas le péché. Cela, c'est l'attribut de l'incrédulité. La Bible dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. L'incrédulité dans la parole, c'est le péché. Regardez ces hommes saints. Eh bien, vous ne pourriez rien trouver à redire en eux moralement. Leur grand-père, leur arrière-grand-père, leur arrière-arrière-grand-père, leur arrière-arrière-arrière-grand-père étaient tous des prêtres. Ils gardaient la loi et les traditions de leurs anciens et de leurs pères parfaitement à travers toutes les générations. Il n'y avait pas une seule faute en eux. S'il y en avait eu, ils auraient été lapidés, des hommes bons. Et Jésus dit, vous êtes de votre père le diable. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas le message, la parole. Il était là. Et lui dire, eh bien, cet homme essaie de détruire nos églises. Il dit, vous, pharisiens et sadducéens aveugles, il dit, voici ce qu'il dit. Il dit, vous traversez les mers pour faire un prosélyte. Que ne feriez-vous pas pour un seul membre? Et quand vous l'amenez dans votre dénomination, il est un enfant de l'enfer 2 fois plus qu'il ne l'était quand il était là-bas. C'est exactement ce que Jésus a dit. Et s'il y a quelque chose qui est inique et impie, prenez un vieux membre d'église retardataire qui pense qu'il est tellement bien et qui ne peut voir qu'à travers ses propres lunettes. Je ne critique pas, mais si, je le fais aussi et cela est exactement juste. Et Jésus dit, vous êtes un enfant de l'enfer 2 fois plus qu'avant. Et quand nous prenons les églises, qu'importe combien il y a de membres dans cette église, et que vous les voyez jouer et parier sur les chevaux, et qu'ils se tiennent là, et les femmes avec leurs shorts marchant dans les rues, et qu'ils chantent dans les chœurs, c'est la plus grande pierre d'achoppement qu'un pécheur puisse avoir. Exactement. Ils s'attendent à voir les gens qui se disent chrétiens, vivre une vie décente et être des gens différents. C'est un exemple. Voilà une pierre d'achoppement, voilà un hypocrite, voilà quelque chose de 10 fois pire que tout ce que vous avez pu être. Ce serait bien mieux pour vous d'être resté comme vous étiez. C'est là que l'on vient certainement dire, eh bien, ils n'ont pas une vie différente de la mienne, non certainement pas, je peux être aussi bien qu'eux. C'est une pierre d'achoppement, c'est tout à fait juste. Voyez-les dire, bien, un pécheur vient dire, Jésus a dit ceci ici. Ah, ce n'est pas cela, car cela, ça ne signifie pas ça, cela, il ne voulait pas dire cela, juste là, c'était pour un autre âge. Oh, vous incrédules, voyez-vous, qu'y a-t-il? Vous avez mis une pierre d'achoppement sur le chemin de cette personne. Jésus, ou plutôt je veux dire David, dans les psaumes dit, ne vous asseyez pas avec les moqueurs, ne vous arrêtez pas sur la voie des impies, voyez-vous? Ne vous mettez pas dans le chemin des impies comme cela et ne vous asseyez pas avec les moqueurs, vous moquant de ceux qui sont droits, vous tenant là disant que c'était une forme de piété. Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, il aime le faire. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Ses feuilles ne se flétriront pas et tout ce qu'il fera prospère. Et tout cela arrivera exactement. Voilà la sorte d'église que Dieu désire. Aveugle, conducteur d'aveugles, faisant venir dans ses derniers jours des moqueurs et ainsi de suite. Le message de l'évangélisation du temps de la fin est dans Malachie 4. C'est une restauration. Le message et le messager devront être tous les deux une restauration de la foi. Jude dit dans le livre de Jude, 30 ans environ après la crucifixion, il dit « Frère, je désire vivement vous écrire au sujet de notre foi commune afin que vous combattiez sérieusement pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. » Voyez-vous? Voyez-vous? Malachie dit pour les derniers jours, le dernier prophète de l'Ancien Testament, que avant que le grand jour et redoutable du Seigneur n'arrive, je vous enverrai Élie le prophète, et il restaurera la foi des enfants, ou la foi des enfants à leur père, juste avant le moment de la destruction. Qu'est-ce? C'est un message qui apparaît, un message, et un messager des derniers jours, dont le but n'est pas de les amener à un credo, mais de les éloigner de ces credos, et de les ramener à la foi originelle des pères, les pères de la Pentecôte, là où l'Église doit être dans les derniers jours. Pas les pères mosaïques, mais les pères de la Pentecôte. Les pères mosaïques étaient Malachie 3. J'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin devant le Seigneur. Matthieu 11, 16 dit la même chose. Jésus témoigne de cela. Quand il vit Jean, il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements de précieuses couleurs, et ainsi de suite. Non, ce n'était pas Jean. Il dit, ceux qui sont vêtus ainsi sont dans les palais des rois. Et ces grandes dénominations qui embrassent les bébés, et Marie, vous savez, et ainsi de suite, enterrent les morts, Marie les jeunes, etc. Ils sont revenus. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un roseau secoué par le vent? Non, pas cela, Jean. Non, non, il n'était pas secoué quand il se déchaînait contre lui. Ils dirent, nous ne serons pas avec toi, et tu vas là-bas. Cela ne faisait pas de différence pour Jean. Il y a là de toute façon, voyez-vous, il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il dit, je vous le dis, est plus qu'un prophète. Et si vous pouvez le comprendre, c'est celui dont le prophète a dit, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Malachie 3, et dans Malachie 4, pour l'âge de l'Église, il dit, je vous envoie Élie avant ce jour-là. Maintenant, ça ne pouvait pas être Jean, parce que le monde n'était pas détruit par le feu alors, et les justes ne marchaient pas sur les cendres des méchants. Non, c'est cet âge, un message qui va arriver, qui fera quoi? Restaurera la foi des gens. L'Église d'aujourd'hui, qui est hors de toutes ces différentes corruptions, hors du corps putréfié, plein d'ulcères, de la dénomination, et qui revient à une foi vivante et à un Dieu vivant. Le message se propage depuis des années, c'est vrai. Il est temps maintenant que nous recevions et que nous croyons l'évangélisation du temps de la fin qui restaure. Et Joël a dit la même chose. Je restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Regardez donc ici. Vous rappelez-vous mon récent message sur l'arbre de l'épouse? Voyez comment ils ont pris Jésus, il était un arbre, celui que David a vu, un arbre planté près des courants d'eau, donnant son fruit en sa saison, l'arbre le plus parfait. Et ils l'ont abattu, ils l'ont pendu à un arbre romain fait de main d'homme, pour se moquer de lui. Mais que fit-il? Il ressuscita le troisième jour. Et que fit-il d'autre? Il présenta un arbre épouse, un homme et une femme, comme les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden, deux arbres. L'un, l'arbre de vie, et l'autre, l'arbre de mort. Et que fit-il? Il vint pour racheter cet arbre. Aussi, puisqu'il l'a racheté au calvaire, il est prêt à le planter maintenant. Oh, je me sens vraiment maintenant plein de ferveur quand on dit une telle chose, voyez-vous? Restaurer cet arbre de l'épouse, celui qui aurait dû être en Éden, mais là elle tomba parce qu'elle ne crut pas la parole. Mais ici, il va restaurer un arbre qui croira la parole. Et quand elle s'éleva le jour de la Pentecôte, cette doctrine originelle, cette foi originelle, alors qu'est-ce que Rome commença à faire? Elle envoya une sauterelle, elle envoya un yélek, chacun prit une partie du fruit, les feuilles et tout, et cela le dévora complètement. Mais le prophète a vu cela, et il a dit, « Mais je restaurerai cet arbre, dit le Seigneur. » Et à la réforme, il a recommencé à pousser, Et que fit-il? Il s'organisa. Alors Dieu l'émonda. Là, dans Saint Jean 14, il en détacha toutes les organisations et il revint à Wesley. Puis, cela s'organisa. Il l'émonda. Mais je restaurerai. Et il vient encore. Maintenant, que fait-il? Au temps du soir, il n'y aura pas une organisation. Il y aura un sommet. Où le fruit mûrit-il d'abord? Au sommet. Pourquoi? Parce que le soleil frappe à cet endroit. Et au temps du soir, les semences sont plantées maintenant pour un arbre de l'épouse du temps du soir. Et quand l'arbre de vie revient à l'arbre de l'épouse, voyez-vous, et les lumières du soir s'élèvent maintenant pour arroser et faire mûrir ce fruit qui est sur l'arbre qui a été planté. Les semences sont semées, voyez-vous, le temps du soir. Ainsi, l'évangélisation du temps du soir sera la marque de Malachie 4. Ramener la foi des gens à la foi des pères. Oui, monsieur, le retour aux pierres de la construction. Amen. Le retour à... Aujourd'hui, les dirigeants disent à nouveau, un grand nombre, c'est ce qu'ils disaient au temps de Jésus, dans cette dispensation-là. Jésus dit, vous hypocrites, vous scribes, vous pharisiens, vous traversez les mers pour faire un prosélyte, vous obtenez un membre et quand vous l'amenez, il est un enfant de l'enfer deux fois plus qu'il ne l'était auparavant. Et aujourd'hui, ils dépensent des millions de dollars, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir un membre de plus dans l'église. Et quand vous le faites, il est bien pire qu'il ne l'était avant d'y entrer. Vous pouvez seulement faire un hypocrite. Il laisse les hommes faire certaines choses, continuer dans le monde et rire et se moquer de l'évangile et tout ainsi. Ce sont, voyez, les dirigeants de ce jour qui disent encore, un grand nombre. Voilà tout ce qui compte aujourd'hui. Ce sont le nombre et les décisions. Maintenant, c'est un si grand mot aujourd'hui, décision. Je voudrais que quelqu'un se décide à servir Dieu plutôt qu'à se joindre à une église. Prenez une décision, entrez, inscrivez votre nom sur le livre. On y envoie un grand nombre de gens et on écrit, comment vous appelez-vous? John, acceptez-vous Christ comme votre sauveur? Oui. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Mais Satan fait la même chose. La Bible dit qu'il le fait, il croit et il tremble. Oui, monsieur. Mais vous ne tremblez pas lorsque vous croyez vraiment. Vous vous réjouissez. Amen. Tous ceux qui aiment son avènement. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui me disent constamment, qui m'envoient des lettres, « Frère Branham, vous faites mourir les gens de peur en leur disant que la fin des temps est proche. » Faire peur à l'Église? Oh, c'est la chose la plus glorieuse qui puisse arriver, la venue du Seigneur, la fin des temps. Je voudrais bien avoir raison maintenant, c'est certain. Eh bien, c'est la chose la plus glorieuse à laquelle j'ai jamais pensé. Rencontrer mon Seigneur. J'abandonnerai ce vieux vêtement de chair, je m'élèverai, je saisirai ce qui durera jamais, et je serai à nouveau un jeune homme, et je vivrai pour toujours avec mon Seigneur et avec tous les miens. Eh bien quoi? Je ne peux pas penser à la lutte au milieu de ce péché, de cette épreuve, et les douleurs et les peines en ce vieil hôpital pour pestiférer ici. Oh, quittez cette chose et allez vers une couronne de justice. Eh bien, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue. Comme l'a dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il y a donc une. J'ai gardé la foi. Et il y a donc une couronne de justice prête pour moi, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pas qui auront cru en son avènement, mais qui auront aimé son avènement. C'est une telle joie de savoir qu'il vient, certainement. Oui, monsieur. Mais aujourd'hui, ce sont des membres, des décisions, amener des membres à l'Église, tant de membres. Cela n'est pas l'évangélisation du temps de la fin. Maintenant, je vais m'arrêter juste une minute. Je veux simplement vous parler du fond de mon cœur. J'espère que je ne vous ai pas retenu trop longtemps. J'ai encore 7 ou 8 minutes et je veux simplement vous parler du fond de mon cœur. N'est-ce pas la vérité maintenant? Des décisions, joignez-vous à une église, vous quittez l'église méthodiste et vous venez vous joindre aux baptistes, ou bien vous quittez les baptistes et vous venez vous joindre à nous, les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, les catholiques, prenant tout, vous voyez? Des membres, des décisions. À quoi servent les pierres si vous n'avez pas un tailleur de pierres pour les tailler? Les confessions sont les pierres. Quand Pierre fit sa confession, Jésus dit, tu es Pierre, une petite pierre. Mais à quoi sert une pierre s'il n'y a pas là un tailleur de pierre pour la façonner en un fils de Dieu? Vous ne faites qu'empiler un tas de cailloux, n'est-ce pas vrai? Ça ne fait absolument rien de bien, voyez-vous? L'eau ronge la pierre, voyez? C'est juste, ce sont les gens. À quoi sert une pierre si vous n'avez pas un vrai tailleur de pierre avec un bon outil aiguisé pour la former afin qu'elle prenne sa place dans la maison de Dieu? Je veux seulement vous demander, à quoi servent les décisions? À quoi sert d'inscrire votre nom dans le livre? À quoi sert de venir se joindre à une église si le tailleur de pierre n'est pas là pour les former et les faire quitter ceci et les faire quitter cela et les tailler, les refaçonner de cette manière et les équarrir et les rendre comme des chrétiens qui sont assis dans la maison de Dieu avec des signes qui suivent les croyants? Voilà l'évangélisation du temps de la fin. Prendre les pierres et les façonner, voyez-vous? À quoi serviraient les pierres si vous ne faisiez que les empiler? Laissez-les où elles sont, elles risquent d'être un peu mieux là-bas qu'elles ne seraient empilées ensemble. On peut avoir besoin d'elles là-bas, et qu'il n'y en ait aucune là-bas, vous voyez, c'est juste. Une pierre ne sert à rien sans un tailleur de pierre. Et Jésus fait le compte des caractères, pas des membres. Savez-vous cela? Il compte les caractères. Dieu a toujours essayé d'avoir un homme dans sa main. C'est tout ce dont il a besoin, un seul homme. Et il fera son travail pendant des années. Pensez seulement qu'il ne put trouver qu'un seul homme juste au temps de Noé. Au temps de Moïse, il ne trouva qu'un seul homme juste. Voyez Samson. Voyez, Dieu ne peut se servir que de ce que vous lui abandonnez. Samson était un grand homme fort. Il avait beaucoup de force. Samson abandonna sa force à Dieu, mais il ne voulait pas donner son cœur. Il donna son cœur à Delila, voyez-vous? C'est ainsi que font les gens aujourd'hui. Oh, frères, ils arriveront à s'acquitter de leurs dettes et des choses comme cela, et ils bâtiront une dénomination plus grande, et ainsi de suite comme cela. Mais quand on en arrive à donner son cœur, ils ne veulent pas le faire, c'est vrai. À quoi sert? Pierre avait une épée. Il tira cette épée, il était prêt à couper les oreilles du grand prêtre et des choses comme cela. Il le fit. Mais quand il en arriva au vrai courage chrétien, il ne l'avait pas. Il recula et le renia. N'est-ce pas juste? Il pouvait couper les oreilles du grand prêtre avec son épée, et certainement il savait comment s'en servir. Mais quand il fut acculé et que ce fut le moment de se tenir sur la parole de Dieu, il n'en eut pas le courage. Et il nia même qu'il connaissait Jésus. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons le courage de construire des bâtiments, d'y mettre des millions de dollars. Nous avons le courage de mettre des orgues, des sièges de velours et tout cela, et de sortir faire du prosélytisme d'un endroit à l'autre, et de changer un méthodiste en baptiste et ainsi de suite. C'est un va-et-vient. Mais quand on en arrive au courage chrétien d'accepter la parole et le message de Dieu, et de s'y tenir, nous refusons. Ainsi, à quoi servent vos pierres sans un tailleur de pierres encore? N'est-ce pas juste? Dieu cherche des caractères, pas des membres. Un caractère. Eliezer, quand il partit chercher l'épouse d'Isaac, il se fatigua à chercher jusqu'à ce qu'il trouve un caractère. Et rappelez-vous qu'Abraham l'en rendit responsable comme Dieu nous rend responsables, c'est juste, nous les ministres. Cherchez mon épouse. Que Dieu bénisse votre cœur. Je ne cherche pas des membres. Je cherche ceux qui ont le cœur pur, voyez? Quelqu'un qui croira la parole. Et Eliezer regarda et il pensa, « Oh, je ne peux pas faire cela moi-même. Il y a trop de responsabilités. Je réalise la responsabilité de trouver pour Isaac. » Qui est le type de l'Église? Vous le savez, Christ. Rebecca, le type de l'épouse. Eliezer se mit à genoux et dit, « Oh Dieu, il faut que tu m'aides. » Et quand il se tourna vers Dieu, Dieu l'aida. Il eut un caractère. Reviens à la parole, frère. Reviens à Dieu. Ne prends pas garde à cette église à laquelle tu appartiens. Tu peux y rester si tu veux, s'il te laisse faire. Mais la première chose à faire est de venir à Dieu. C'est juste. C'est l'évangélisation du temps de la fin. Oui, un caractère. Et quand il découvrit, et alors quand Eliezer trouva le caractère qui était dans la femme, Rebecca, la belle épouse d'Isaac, il lui parla d'Isaac. Elle ne mit pas en doute une seule chose. Elle crut à la parole du messager et elle se prépara à partir. Et ils allèrent demander au père. Et il dit, demandez-lui, la jeune fille est majeure, demandez-lui et que sa décision soit prise. Et elle dit, j'irai. Vers qui? Un homme qu'elle n'avait jamais vu, dont elle ne savait rien. Mais pourtant, elle était prête, parce qu'elle était prédestinée, préordonnée pour cela. C'est absolument vrai. Avez-vous remarqué la femme qui lava les pieds de Jésus? Elle ne demanda jamais une bénédiction. Elle regarda simplement là. Et là était cette hypocrite, essayant de se moquer de lui, d'abaisser son caractère. C'est ce qu'ils ont toujours essayé de faire, de le rabaisser. Certaines personnes, vous savez, ne le suivaient que pour cela. Ils disaient, « Maintenant, regarde, bon maître, nous savons que tu es un grand homme de Dieu, tu ne crains rien. Devons-nous payer le tribut à César ?» Voyez-vous, toutes ces choses, c'était simplement pour essayer de trouver quelque chose pour noircir son nom, pour le salir. Et ce pharisien l'invita là à dîner, cette dénomination, sachant qu'ils allaient l'inviter. Ils avaient préparé quelque chose. Comme dirait un joueur, ils avaient un atout dans leur manche. Ils savaient quelque chose en commun. Ainsi, quand vous voyez quelqu'un comme cela qui vous déteste parce que vous prenez la cause de Christ et qu'il vous invite, ou c'est pour vous soutirer pas mal d'argent, ou faire quelque chose, se servir de vous d'une certaine façon, voyez-vous. Ils ne croiront pas au message. Ils vous amènent là pour quelque chose d'autre. Et pensez-vous que ce même Christ ne discerne pas les mêmes choses aujourd'hui? Certainement, il les discerne. Mais ils l'amenèrent là et dirent, maintenant nous allons le trouver. Ils l'amenèrent là, ils le laissèrent entrer sentant mauvais, ils ne lui lavèrent pas les pieds, ils ne lui souhaitèrent pas la bienvenue. Il était assis là, dans les vêtements dans lesquels ils avaient voyagé, emportant les saletés qu'avaient laissées les chevaux et tout cela sur le chemin. En ce temps-là, toutes ces vieilles traces, ils voyageaient tous de la même façon. Les longues tuniques ramassaient la saleté, et c'était là, sur lui. Et cela sentait mauvais à cause de la poussière et des choses sur la route. Une vieille odeur, comme dans les basses-cours et tout cela. Et c'était sur lui. Il entrait dans la maison des invités, avec les épais tapis sur le sol et tout cela. Ils avaient une sorte d'onguent, ils lavaient leur visage, lavaient leurs pieds, leur donnaient une paire de chaussons, arrangeaient leurs sandales. Puis il entrait après qu'ils s'étaient bien habillés, arrangés, coiffés les cheveux, alors il entrait. Alors, vous accueillez vos invités, puis vous leur souhaitiez la bienvenue, vous les serriez dans vos bras, et ils se tenaient par le cou et ils s'embrassaient sur le cou, voyez-vous. Comme vous avez vu, le frère Joseph et moi tout à l'heure, nous prenons dans les bras l'un de l'autre, et nous tapons sur l'épaule, et ils s'embrassaient sur le cou. Mais ce pharisien, après l'avoir invité là, alors qu'il était assis là, ne lui a jamais fait laver les pieds, il ne fit jamais rien pour lui, il le laissait là, pour se moquer de lui. Mais cette pauvre petite prostituée méprisée, avec un peu d'argent qu'elle avait gagné dans son métier de mauvaise réputation, elle le vit assis là. Et de grosses larmes coulèrent de ses yeux. Elle sortit, elle alla chercher un vase d'albâtre avec tout l'argent qu'elle avait. Elle revint en se faufilant, elle tomba à ses pieds, elle se mit à pleurer. Ses cheveux sur les épaules. Et elle pleurait, elle prit son... Il n'avait pas de serviette pour laver ses pieds. Elle prit ses cheveux pour les essuyer. Quelle eau magnifique pour ses pieds. Les larmes d'une pécheresse repentante. Et s'il avait seulement bougé son pied, elle se serait sauvée. Elle ne demandait rien. Elle avait simplement vu qu'il fallait que ce soit fait. Ne pouvons-nous pas faire cela aujourd'hui? Nous ne demandons rien. Il faut que ce soit fait. L'évangile doit être prêché. Que nous possédions un penny ou quoi que ce soit, ça ne fait aucune différence. Je n'ai jamais pris une offrande dans toute ma vie. Ceci est un besoin. Ceci est une cause. Séparez-vous. Et les églises vous haïssent. Et toutes sortes de choses. Ils vous mettent dehors. Il ne vous reste plus que peu d'amis. Mais c'est un message. Il doit avancer quoi qu'il arrive. Je ne suis jamais allé à la radio ou dans de grands programmes de télévision où j'aurais dû demander de l'argent aux gens. Je n'aurais pas pu faire ça. Je veux être votre frère. Je veux aller où Dieu. S'il y a 5 personnes ici, alors allez là-bas. Allez là-bas s'il y en a 1 million. Mais Dieu m'ouvrira le chemin pour y aller, c'est tout. Le vivre simplement par la foi, c'est la façon dont nous devrions tous le faire. Et Dieu merci, beaucoup le font, voyez-vous, de la même façon, c'est vrai, ils le font. Regardez cette petite femme. Jésus n'a jamais bougé le pied. Voyez le vieux pharisien qui était là, essayant de se moquer de lui maintenant, disant, « Mais maintenant, s'il était un prophète, il saurait de quelle sorte est cette femme qui lui lave les pieds. » Voyez-vous, il saurait de quelle sorte est cette femme qui est près de lui. Voyez, voilà qu'il montre quelle classe il fréquente. Oh, je suis si heureux de cela, oui. Il le savait. Regardez là quelle classe de gens est avec lui. Nous sommes pleins de dignité. Nous sommes les membres de l'Église. Et regardez cette pécheresse là avec lui, cette femme. Nous savons qui elle est. Elle arpente la rue. Elle est, vous savez de quoi je parle. Ainsi là, c'était ce genre de femme. Regardez, c'est le genre de gens qui le suivent. Oh, je suis si heureux. Voilà ce que j'étais, vous savez. J'étais ce genre de personne, rien de bon, un pécheur. Et vous tous êtes ainsi si vous n'êtes pas venus à lui. Vous ne venez pas seulement pour être un membre de l'Église. Vous venez parce qu'il y a quelque chose à faire. Il faut que Jésus soit servi. Quelqu'un doit être là. Faisons-le. Elle n'a jamais demandé, « Seigneur, me béniras-tu? Feras-tu ceci ?» Non, elle lui a juste lavé les pieds. Elle les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Vous savez que certaines de nos sœurs devraient se tenir sur la tête pour avoir assez de cheveux pour lui essuyer les pieds aujourd'hui. Et la voilà, avec ses jolies boucles qui se répandent, elle lui essuie les pieds. Elle lui baisait les pieds continuellement ainsi. Et lui était simplement assis là et il la regardait. Il ne bougea pas d'un centimètre. Et après un moment, quand elle eut fini, il se tourna. Et le vieux Simon était là avec tout l'ensemble des prêtres et dit, « Ah ah, c'est lui, voyez, vous y êtes. Cela montre ce qu'il est. Ce n'est pas un prophète, regardez-le. » Et il se retourna et il dit, « Simon, oh, j'imagine que le rouge lui était monté au visage. » Il dit, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as invité ici, vois-tu? Quand j'ai passé par la porte, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas donné de baiser de bienvenue. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Tu es juste resté là en essayant de te moquer de moi. Vois-tu? Tu m'as amené ici dans ce but. Et cette femme, depuis que je suis arrivé là, elle n'a cessé de laver mes pieds avec ses larmes et de les essuyer avec les cheveux de sa tête. Elle n'a pas constamment baisé mon cou, mais mon pied. Vous n'attendiez rien, n'est-ce pas, sœur? Non. Mais je te le dis, que tes péchés qui sont nombreux sont tous pardonnés. Voyez-vous? Depuis le début, elle n'avait rien du tout, si ce n'est juste la peur de ne pas faire la chose juste, peut-être. Mais il fallait que ce soit fait, mais sa récompense arriva à la fin. Vous pourriez m'entendre prêcher ce message. Vous pourriez voir le Saint-Esprit discerner, faire de grandes choses et accomplir des miracles. Vous pourriez prier qu'il n'arrive rien, mais continuez. Votre récompense arrivera à la fin. Est-ce que ce ne serait pas mieux tout de suite là? Oui. Voyez, rendez un service à Jésus. C'est le message du temps de la fin. Il avait une épouse. Dieu recherche un caractère. Et alors, après qu'Éliezer ait trouvé le caractère, la première chose qu'il fit fut de la préparer à partir. C'est la même chose maintenant, frère. La même chose maintenant. Le message du temps de la fin n'est pas tout là-bas à Babylone. C'est ce que je vous ai dit, Joseph. Et ce petit frère suédois se tenait là-bas. Il mit sa tête sur mon épaule un jour. Il pleura comme un petit enfant et dit, frère Branham, Dieu m'envoya ici à Chicago. Il dit qu'un jour je verrai Chicago trembler. Et il dit, maintenant on me renvoie, on me reprend mon église, la meilleure église de Chicago. Il dit, on prend mon église et on me met à la porte. Ils ont voté pour me faire partir. Je ne sais pas quoi faire. Je répondis, Joseph, Dieu ne ment pas. Je dis, vous avez vu Chicago trembler. Cela a commencé dans la cité de New York, quand je vous ai vu là-bas, parce qu'il ne voulait pas coopérer avec vous. Je ne voulais même pas y aller. Et je ne le connaissais même pas. Mais quelque chose en lui m'attirait. Maintenant, je ne dis pas cela parce qu'il y a une réunion de missionnaires ce soir, mais c'est vrai, j'étais attiré vers Joseph. J'ai refusé d'aller à Chicago parce qu'on ne voulait pas le laisser venir, le laisser entrer en coopération. Je dis, alors, je n'y vais pas non plus. Ils dirent, vous ne le connaissez pas. Je dis, je sais que je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Il est le serviteur de Dieu, et pour moi, il est bien. Et donc Joseph dit, je voudrais voir Chicago trembler. Oh, ma, ne pensez pas que trembler veut dire que ce sera de la chair de canon là-bas. Ça ne veut pas dire que ce qui est mauvais sera détruit là-bas. C'est l'Église qui tremble, voyez-vous? Il n'y en avait que 120 sur des millions dans la chambre haute quand cela commença à trembler. C'est vrai, certainement, ce sont les gens qui tremblent. Regardez, quand ils eurent ce grand réveil, cet Apollos, le prédicateur baptiste qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit et qui n'avait jamais été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Et quand Paul passa par la côte supérieure d'Éphèse, il trouva cette église puissante dont parle la Bible, et il y alla et il leur enseigna la conduite du Seigneur. Et il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? Et il criait, passé un moment merveilleux, mais il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils dirent, nous ne savons même pas qu'il y en a un. Il dit, alors, comment avez-vous été baptisés? Ils dirent, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il dit, cela ne marche plus. Il faut que vous soyez rebaptisés. Et il les rebaptisa dans le nom de Jésus-Christ. Et il leur imposa les mains. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Et il n'était pas plus que 8. C'est juste. Un tremblement, voyez. Dieu ne fait pas trembler cela. L'enfer fera trembler cela quand il le recevra. Mais Dieu fait trembler son Église. Un ange vint vers Abraham et son groupe là-haut sur la montagne, et il a accompli un miracle en discernant les pensées qui étaient dans son cœur. Est-ce juste? Et Sarah était là à l'intérieur, là où les anges descendirent à Sodome, il y en avait des milliers. Voyez, le fait de trembler vient dans de petits groupes. Vous l'avez vu, Joseph. Vous avez vu que Chicago avait son dernier appel, c'est vrai. Et Dieu vous a honoré. Il a fait exactement ce qu'il avait dit. Il prépare l'épouse. Voilà ce que c'est. Maintenant, nous allons terminer tout de suite en disant cela. Le message du temps de la fin est là pour préparer l'épouse et qu'elle soit prête pour l'enlèvement. Que peut-il faire? Selon Malachie 4, il doit les ramener à la foi qui avait été donnée autrefois aux saints. Les ramener à la foi des pères, à la Pentecôte, au temps de la restauration. Je restaurerai, dit le Seigneur. C'est un véritable événement, l'évangélisation du temps de la fin. Maintenant, je veux juste dire ces quelques mots avant de terminer. J'ai laissé de côté le reste de ce passage des Écritures et peut-être qu'un jour je pourrai y revenir, mais je désire dire ceci. Nous croyons que nous sommes à la fin des temps. Nous le croyons et pourtant, à la fin des temps, à cette période-ci, il semblerait que le message et le messager soient presque démolis. Il semble que Satan ait fait de son mieux pour que nous chavirions. Frère Neville et son accident, le frère Craze là-bas et le fusil qui explose, voyez, cela en a bien l'air. Et juste maintenant, quand absolument toutes les églises me montrent du doigt, et voyez, on dirait que c'est presque démoli. On dirait que nous sommes vaincus. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est généralement à ce moment-là que Dieu entre en scène pour quelque chose qu'il a préparé depuis longtemps. Rappelez-vous qu'une fois, il y avait des jeunes gens dans la fournaise ardente. Ils restaient fidèles à cette parole. Tout allait mal. On les jeta en prison. On les y garda toute la nuit. On devait les brûler le matin suivant. Et il semblait que la fin était arrivée. Et voilà, marchant tout droit vers la fournaise, mais il arriva pour tout changer, et toute la scène fut changée en un instant. C'est toujours dans les moments de plus grande faiblesse, alors que le véritable message paraît être vaincu, que Dieu fait son entrée. Il laisse le message et le messager aller jusqu'au bout du chemin, Alors il entre et il navigue sur les hautes vagues, c'est vrai. Rappelez-vous Jésus, quand ses ennemis pensaient qu'il l'avait vaincu, les incroyants disaient « nous l'avons mis sur la croix ». Les Sadducéens, les pharisiens qui le haïssaient et qui le pendirent à la croix pensaient « nous l'avons eu maintenant ». Oh, oh, c'est à ce moment-là que Dieu entra en scène, le ressuscita le matin de Pâques et brisa le royaume de Satan, dépouilla l'enfer, prit les clés de la mort et de l'enfer et s'éleva avec elle. Certainement, c'était juste à ce moment de faiblesse. Son message, il avait prêché la parole, il était resté fidèle et tout cela. Et ce fut à ce moment de parfaite faiblesse que vint la victoire. Quand il eut fait ce qu'il pouvait faire, alors Dieu entra, il changea la scène. C'était Jacob, courant pour échapper à Ésaü, allant de ci et de là pour prendre l'avantage des différentes choses, essayant de se cacher d'Ésaü. Puis son cœur commença à désirer revoir son pays. Et sur la route qui le menait chez lui, il envoya des messagers, il envoya des cadeaux et toutes sortes de choses pour essayer d'apaiser Ésaü. Mais ce fut quand Jacob se sépara de lui-même, et ce fut quand il ne sut plus vers quoi se tourner, complètement désespéré. Il fit traverser l'eau à sa femme, à ses enfants, et il revint en traversant le ruisseau. Ce fut quand Jacob eut à lutter toute la nuit, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Il était alors estropié, il était faible, son corps était brisé. Ce fut à ce moment-là que Dieu entra en scène. Et le matin suivant, que trouvons-nous? Un prince intrépide après sa faiblesse. Il semblait avoir été vaincu, mais nous voyons qu'il est un prince intrépide. Le message avançait, le messager était avec lui. C'est exactement vrai. Il était un prince intrépide le jour suivant. Ésaü, même quand il avait le plus besoin de lui, Ésaü, quand il fit... Et rappelez-vous que pendant tout ce temps, Dieu travaillait dans le cœur de son frère aussi, c'est vrai. Et Ésaü va à lui, « Tu es des armées ici. » Il dit, « Tu es faible, Jacob. Ton corps souffre, tu es brisé. » Il dit, « J'enverrai des soldats pour te protéger. » Exactement quand il en avait besoin. Mais il avait trouvé quelque chose. Il dit, « J'irai seul. » Amen. C'est quand il fut remis de cette faiblesse, il avait été remis de ce choc. Et quand Jésus fut remis du choc de la mort, il fut d'autant plus fort. Il pouvait entrer dans un bâtiment sans même toucher au ciment des pierres. Il pouvait manger du poisson et du pain. Amen. Oh oui, ce fut à ce moment, après que la faiblesse fut partie, qu'il se retrouva fort. C'était après que la faiblesse fut venue. Et il semble qu'à la fois le message et le messager soient bien faibles maintenant. Mais ne vous en faites pas. Quelque part, je ne sais pas comment, mais j'ai confiance en lui. Il va entrer en scène un de ces jours. Ne vous en faites pas. Allons ensemble. Courbons la tête tous ensemble. L'évangélisation du temps du soir. Oh, la grande lumière du soir brille maintenant depuis quelque temps. Nous vous avons vu venir nombreux dans cette salle ici, amenant des gens qui n'étaient plus que l'ombre d'un homme ou d'une femme, rongés par le cancer, aveugles, malades, affligés. Les docteurs, même ceux de la clinique Mayo, ne pouvant plus rien faire pour eux. Et maintenant, ils sont assis ici ce matin. Beaucoup d'entre eux sont forts, en bonne santé. Pas seulement ici, mais dans le monde entier. Des femmes ont reçu leur enfant revenu à la vie, après avoir été mort pendant plusieurs heures. Des enfants ayant été tués sur la route par des voitures, déclarés morts, étendus là, n'ayant plus un seul os en bon état. Et la minute d'après, ils marchaient le long de la route, louant Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Le temps du soir est ici. La semence évangélique du soir a été semée, Père. Et maintenant que nous arrivons à un temps où nous sommes désemparés, beaucoup de ceux-ci, quand tu as paru d'abord en scène autrefois dans ta dispensation, tous disaient, ce jeune prophète de Galilée, oh, ils se rallièrent tous à toi. Mais quand tu commenças à les attaquer, à leur parler de leur credo et de toutes ces choses, alors ils te quittèrent. Il a fallu que tu te tiennes seul. Et finalement, ils te conduisirent au calvaire. Ils semblaient avoir gagné. Il semblait que leur grand groupe intellectuel avait vaincu la cause de Dieu. Mais oh non, le matin de Pâques, la terre frissonna et trembla. Le tombeau s'est ouvert et le Fils de Dieu en est sorti. Il avait les clés de la mort et de l'enfer. Il avait le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir le leur donner. Il dit à son Église, « Montez à Jérusalem et attendez, et je l'enverrai sur vous, puis vous serez mes témoins jusqu'à ce que je revienne. » Et puis, tu t'es tenu là, tu leur as dit comment serait le temps, et voici nous sommes au temps de la fin. Seigneur, entre en scène de nouveau. N'est-ce pas, Père? Nous finissons par être fatigués et usés. Les hommes ont chassé de partout. Les dénominations nous montrent du doigt. En Californie, là-bas, ces précieux saints, debout, pleurant, 40 églises, et un dirigeant se leva et dit, « Eh bien, s'il baptise en utilisant le nom du Seigneur Jésus, nous ne voulons pas de lui. » Et il retira l'Évangile à ces pauvres gens affamés. Et Père, je dis, « Venez, voyons avec les Écritures. » Et il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Il avait trop d'expérience pour cela. Pourquoi les païens sont-ils furieux et les gens imaginent-ils des choses vaines? En vérité, la main de ton saint enfant Jésus est étendue pour guérir les malades et montrer encore des signes et des prodiges. Cela se répète, Seigneur. Je prie pour eux. Ô Dieu, qu'ils ne soient pas rejetés. Il y en a encore beaucoup d'hommes bons parmi eux. Accorde, Seigneur, qu'ils voient et qu'ils sortent. Et notre petite assemblée ce matin, Père, nous ne connaissons pas le cœur des gens. Tu les connais. Ce petit groupe ici, je vais partir tout de suite là-bas de toute façon. Et maintenant, avant que nous ne quittions l'église, Seigneur, ce petit groupe qui est ici, nous sommes des pèlerins. Ils ne prétendent pas être de ce monde, Seigneur. Ils sont étrangers. Ils sont nés de nouveau. Ce sont de nouvelles créatures. Ils sont sortis des choses de ce monde pour servir Dieu, sachant ceci. Ne convoitez pas les vaines richesses de ce monde qui sont si vite détruites. Nous avons notre espérance construite sur les choses éternelles qui ne passeront jamais. Père céleste, si par hasard il y en avait un ou plusieurs parmi nous ce matin qui n'ont jamais ressenti qu'ils devaient prendre ce chemin, je te prie de parler à leur cœur en ce moment et qu'ils puissent doucement et humblement dans leur cœur tout abandonner et dire « Seigneur Jésus, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je ne veux pas mourir dans l'état où je suis maintenant. Et ne sachant même pas si je vais vivre encore cette journée, ne serait-il pas fou de perdre mon temps pour des choses de ce monde? Et tout ici périra, et les gens périront avec le monde. Mais Dieu, le Père éternel, ne peut mourir non plus que son peuple. Puisse-t-il l'accepter maintenant, notre Père céleste? Bénis ces mouchoirs qui sont ici pour les malades et pour les affligés. Il est dit qu'il prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul et que les mauvais esprits étaient chassés. Guéris les malades qui sont au milieu de nous ce matin. Je te prie qu'il n'y ait même pas une seule personne faible parmi nous. Le glorieux Saint-Esprit puisse-t-il se répandre sur cet auditoire maintenant et que chacun réalise sa présence. Et comme je l'ai dit au début, quand un orage approche dans un été sec, les vents desséchant et ils sont chauds, la poussière qui vole, mais tout à coup, nous pouvons entendre le tonnerre, nous pouvons voir élever le nuage. Et j'ai dit que c'était le signal rouge. Il vient. Et nous sentons la fraîche brise, l'heureuse venue du Saint-Esprit se répandant sur les endroits desséchés. Aide-nous aujourd'hui. Sauve les perdus. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur, rapidement, avant que ne s'éteignent les lumières, car le signal est déjà prêt. Le vieux bateau de Sion est prêt à lever l'ancre maintenant, et ce ne sera pas long avant qu'il n'appelle. Et tout à coup, un journal paraîtra disant, qu'est-il arrivé? Des centaines de gens ont disparu à travers la nation. Oh Dieu, alors il sera trop tard pour ceux qui resteront. L'enlèvement aura eu lieu. Le jugement frappera la terre, les justes s'en seront allés. Alors ils iront sur les tombes et diront, « Eh bien, est-ce que a-t-on ouvert la tombe? Eh bien, qu'est-il arrivé là? Oh, celui-là qui mettait sa confiance en Dieu qui mourut il y a des années sera parti. Alors, oh, que de pleurs, que de lamentations quand les perdus connaîtront leur destinée. Ils crieront aux rochers, aux montagnes, selon les Écritures. Priez, mais il sera trop tard pour prier. Puisse cela ne pas arriver à aucun de ceux qui sont présents ici aujourd'hui. Et pendant que nous avons la tête inclinée, le cœur incliné aussi, je suis quelqu'un de très spécial au sujet de l'appel à l'autel. Je crois que ce n'est pas une doctrine apostolique. Je crois que juste là où vous êtes assis, vous prenez la décision de savoir si vous désirez vraiment vivre ou mourir. Je crois que c'est votre choix. Et s'il y a quelqu'un ici qui jamais auparavant ne l'a vraiment vu de cette façon et qui réalise dans quelle heure nous vivons et qui veuille simplement que je me souvienne de lui dans la prière, qui désire devenir un chrétien, qui désire être semblable à Christ dans sa vie, être prêt pour sa venue, qu'il lève simplement la main dans cette salle. Que le Seigneur vous bénisse, et vous bénisse, et vous bénisse, et vous aussi, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là-bas dans le fond, qu'il vous bénisse ici aussi, c'est bien. Que Dieu vous bénisse, jeune fille, juste un croisement dans votre vie, sœur. C'est une grande décision. Vous avez pu faire beaucoup de grands. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Oui, vous avez sans doute travaillé beaucoup de dures journées dans votre vie aussi et élevé un petit enfant. Ô maman qui êtes assise à côté, ô Dieu, peut-être avez-vous élevé votre famille et fait beaucoup de choses. Tapoté les joues du bébé quand il pleurait, remuer le berceau de vos jeunes mains et maintenant elles sont vieilles et faibles. Vous pouvez avoir bercé le bébé et fait beaucoup de bonnes choses. Mais la meilleure chose que vous ayez jamais faite a été de lever votre main alors. Pardonnez-moi, excusez-moi s'il vous plaît. Notre Père Céleste, tu as vu les mains. Tu sais ce qui était derrière elles. Maintenant, ce sont les trophées de cette réunion. Ce sont les trophées du message. Tu as dit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et aucun homme ne peut venir si mon Père ne l'attire d'abord. Et tu as parlé à ces gens. Et ils étaient assis là, et selon la science, ils ne pouvaient, leurs mains auraient dû rester là en bas parce que la gravitation les tient en bas. Mais ils ont brisé, défié les lois de la science. Il y a un esprit en eux qui leur a fait lever la main, ce qui est contraire à la science. Parce que l'esprit qui est là peut briser la science. Et ils ont levé la main parce qu'il y avait l'esprit de Dieu autour d'eux qui a dit, vous avez besoin de Christ. Et ils ont levé la main, souviens-toi de moi, Seigneur. Comme le brigand mourant sur la croix dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et que lui as-tu répondu? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et je te prie, Père, aujourd'hui même, de prendre dans ton royaume, dans ta communion, ici sur terre, chacun de ces croyants et d'être bon avec eux. Jésus, tu as dit, quand tu étais ici sur la terre, dans Saint Jean 5, 24, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement. Il ne sera pas là quand le jugement frappera la terre, mais il sera passé de la mort à la vie. Tu l'as promis, Seigneur. Je les réclame. Et maintenant, tous ceux qui ont levé la main, même ceux qui dans leur cœur ont cru qu'ils auraient dû le faire et ne l'ont pas fait, je te les donne ce matin, Seigneur, comme des trophées de la grâce de Jésus-Christ et de sa parole que nous avons prêchée ce matin. Ils sont à toi. Garde-les en sécurité, Seigneur, jusqu'à ce jour. Et puissent-ils grandir comme des bébés, puissent-ils aller vers les eaux ici dans ce bassin, mourant après avoir confessé leurs péchés, ensevelis en Jésus-Christ, pour venir à une vie nouvelle, pour marcher dans un monde nouveau, marcher avec de nouveaux compagnons, marcher en une nouvelle compagnie, marcher avec les anges, marcher dans la présence du surnaturel. Ces choses qu'ils ne peuvent pas voir autour d'eux, mais qu'ils sentent et qu'ils savent être là. Ce sont les choses qui demeurent. Le surnaturel est ce qui demeure. Nous te les donnons, Père, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je suis désolé de vous avoir gardé un peu au-delà du temps. Et je suis sûr que vous vous sentez bien. Maintenant, les réunions, quelquefois, il faut que je coupe et que je comprenne. Mais maintenant, pour vous qui avez levé la main et qui croyez au Seigneur Jésus, vous aurez un service de baptême, je crois, ce soir. Ou je crois que les baptistères sont remplis si vous le désirez tout de suite. Et les robes, et tout est prêt. Si vous désirez être baptisé tout de suite, quand vous voulez, nous sommes là pour le faire. Et maintenant, après avoir coupé et scié, nous remercions les étrangers dans nos portes qui viennent pour communier avec nous ce matin autour de la parole de Dieu. Nous apprécions qu'ils viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes si heureux que vous soyez ici. Je vois là un de mes amis assis au fond dans la salle ici, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je ne sais même pas le nom de ces garçons, mais c'est l'un de mes bons amis. Il est le cousin d'une jeune fille avec qui j'avais l'habitude d'aller, Marie Francisco. Je ne me souviens pas de qui ni quel est son nom. Voulez-vous lever la main, s'il vous plaît? Nous sommes heureux de vous voir assis là et que Dieu vous bénisse. Ce garçon est chrétien depuis de nombreuses années. Je suis... Mon ami ici, Jim Poole. Combien m'ont entendu parler de Jim Poole? Un ami d'enfance, et son fils et sa femme. Et Donnie, je ne me souviens pas de son dernier nom. Donnie Gard, et sa gentille petite femme ici. Ils sont venus à la maison hier pour me voir. Je suis si heureux de les avoir ici ce matin. Et je crois que c'est un frère étranger assis ici près de frère Way. Et oh, ainsi, juste ici, peut-être je me trompe. Quelquefois j'oublie les visages. Et je suis heureux de vous avoir tous ici ce matin. Et maintenant, avant de partir, après avoir coupé, et vous savez, la Bible dit, la parole de Dieu, comme cette décision, faisant une pierre, mais il faut avoir un tailleur de pierre pour couper cette partie, pour lui donner sa forme, voyez-vous. Et Hébreux au 4e chapitre dit, la parole de Dieu est plus aiguë et plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Elle coupe, elle circoncit, elle supprime le surplus, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle coupe. Alors maintenant, juste pour adorer, chantons mon petit cantique favori, un de mes favoris. Oh, je l'aime, oh, je l'aime, combien l'aime réellement. Je ne tiens pas compte de ce que vous soyez ou non un chrétien. Vous dites, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Chantons-le ensemble maintenant, tous ensemble. N'aimez-vous pas cela? Chantons encore, et pendant que vous chantez, serrez la main de quelqu'un collé de vous. Ne vous levez pas, mais dites simplement que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un à côté de vous, pour que tout se sente réellement bien accueilli. C'est notre façon d'accueillir ici dans le tabernacle. De ma part, et chacun de vous, c'est vrai. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier, et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Couvrons nos têtes maintenant le fredonnant. Frère Branham et l'assemblée se mettent à fredonner le cantique « Je l'aime ». Et maintenant, élevez votre main vers lui, tout simplement. Frère Branham continue à fredonner « Je l'aime », nom de l'éditeur. Maintenant, n'est-ce pas merveilleux? Oh oui! Un frère parle en langue et Frère Branham s'arrête, nom de l'éditeur. Soyez vraiment respectueux juste un moment. Jésus a dit « Ces signes suivront ceux qui auront cru ». Ils parleront en votre langue. S'ils prennent un serpent ou boivent un poison, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Attendez juste une minute pour voir s'il y a une interprétation pour cela. Et si des étrangers sont dans nos murs, nous attendons pour voir ce que le Seigneur va nous dire à travers ce message. Un frère donne une interprétation, note de l'éditeur. L'interprétation. Ainsi, nous avons l'interprétation de ce que cet homme a dit ici. Et si une personne est ici qui ne sache pas ce que c'est que cela, c'est l'Esprit. Cela arrive dans le tabernacle pour donner un message aux gens. Mais prions. Père Céleste, nous te remercions pour ceci, ne sachant pas que quelqu'un quelque part, que tu as parlé à un cœur quelque part, et il a appelé à nouveau même à la fin du message, il a dit, il les a appelés tes enfants, parce que tu les as appelés, peut-être qu'ils étaient prêts à partir sans avoir reçu. Ceci, le message vient à nouveau. Aussi nous prions, Père Céleste, que tu accordes une grande portion de ton esprit sur cette personne, quelle qu'elle soit. Tu n'as jamais dit leur nom, tu as simplement parlé. Et ainsi, Père, est-ce peut-être la façon que tu désires? Et nous prions simplement, Père, que ta volonté soit faite pour cette personne ou ces personnes, quelles qu'elles soient, et qu'on en arrive à un appel définitif. Je prie, Père, mais ce matin, s'ils veulent le recevoir et croire de tout leur cœur, après avoir entendu le message tel que tu l'as donné et dit, puis puissent-ils le recevoir de tout leur cœur pour recevoir l'Esprit. Puissent-ils se lever et être baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés, être délicieusement remplis du Saint-Esprit et conduits dans une vie de service et de bonheur. Je te les remets maintenant, Père, et je te remets l'Assemblée dans le nom de Jésus. Amen. Ces messages, quelquefois, parlent à quelqu'un, mais nous ne savons pas qui ils sont. Quelquefois, ils disent qui ils sont. Mais juste quelqu'un ici qui aurait été prêt à partir sans lui. Et quand vous le faites, rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit parlant dans une langue qui demande à être inspirée. La même personne qui a parlé a eu l'interprétation. Maintenant, rappelez-vous de ce que je viens juste de lire. Ces signes suivront ceux qui croient. Voyez, nous sommes au milieu des croyants. Nous ne croyons pas que tout le monde ait à faire cela. Nous pensons que cela tombe dans l'Église parmi les gens. Et quelquefois, les gens viennent ici sans avoir jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Et le Saint-Esprit tombe sur eux, donne un message, guérit des gens qui sont assis ici, mourant du cancer et de toutes sortes de maladies et de choses, et commençant tout à nouveau, c'est le Saint-Esprit parmi son peuple. L'aimez-vous? Amen. Je l'aime aussi. Et nous espérons vous voir ce soir. Et maintenant, Frère Neville, je remets la suite du service à Frère Neville, notre pasteur.